de nous avoir rejoints. On a un peu débordé, mais on va essayer de ne pas finir trop tard pour pouvoir entendre, avoir tout notre esprit pour entendre les derniers intervenants, les dernières intervenantes. Merci beaucoup à Anne-Marie Guillemard, d'abord pour sa patience, parce que elle a attendu, mais c'était très agréable de vous observer, car vous preniez des notes, vous réagissiez à ce qui se jouait à la tribune, et pour l'animateur, c'est toujours motivant. Alors, je dois à la vérité de dire que lorsque Anne Bonnefoy et moi-même nous sommes dit, mais à un moment donné, il va bien falloir qu'on s'interroge sur la manière dont les pouvoirs publics peuvent répondre à tous ces défis, à tous ces changements, à toutes ces évolutions qui ont été décrites en première partie de soirée, nous ignorions à quel point, les pouvoirs publics sont un peu, j'allais dire, coupables ou un peu responsables du fait, et j'en dirai pas plus, je vous laisserai le soin, Anne-Marie Guillemard, de nous le dire plus en détail, mais du fait de leur propension à définir les politiques sociales à partir de catégories d'âge figées. Permettez-moi juste, Anne-Marie Guillemard, de dire que vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, mais celui qui a retenu toute notre attention pour nourrir la réflexion de ce soir, c'est « Les défis du vieillissement, âge, emploi, retraite, perspective internationale ». J'ai lu à dessein le sous-titre parce que ça souligne votre approche comparative et le fait que vous articulez les différentes dimensions. Et puis, que dire d'autre ? Que vous avez 20 minutes pour nous éclairer sur...
Alors, au bout de 10 minutes, vous me faites signe pour dire que j'ai passé la moitié de mon
volontiers.
Topo.
Okay.
Mes travaux sont un peu à la fois, je m'inscris dans la sociologie du life course dont Claudine a parlé tout à l'heure, et en même temps je suis une spécialiste de l'analyse des politiques publiques, de l'analyse comparée internationale des politiques publiques. Voilà, donc c'est un peu de ce point-là que je vais vous dire quelque chose sur... les politiques publiques, et je voudrais insister parce que ce n'est pas toujours bien compris que les politiques publiques, ce n'est pas une réponse à des problèmes, c'est à la fois une manière de définir le problème, de le construire, et des éléments de réponse. Et il faut les prendre comme ça, les politiques publiques. Elles créent, elles construisent les problèmes en même temps qu'elle propose des instruments pour y répondre. Et donc, c'est un peu cela que je voudrais défendre comme idée devant vous. Et puis, bien sûr, qu'on voit ensuite qu'est-ce qu'on peut faire en termes de politique publique, quelles sont les bonnes et quelles sont les mauvaises. Et il y a quelques exemples étrangers qui sont intéressants à cet égard. Alors, ce que je voudrais défendre devant vous, c'est que les politiques publiques sont indissociablement, et je voudrais insister sur cette indissociabilité, une construction des problèmes et une mise en œuvre d'instruments et de règles pour résoudre ces problèmes. Donc ce n'est pas seulement du normatif, des règles, des normes produites par ces politiques sociales, mais c'est du cognitif. C'est-à-dire que les politiques publiques produisent une façon de voir la question. Et je prendrai quelques exemples rapides dans le champ de mes travaux passés. J'ai fait un certain nombre de travaux sur la vieillesse et sur les politiques sociales vieillesse en France sur une longue période, à peu près une centaine d'années. Et quand on regarde la période 45, la pré-Seconde Guerre mondiale, jusqu'à, disons, 58, la fin des années 50, ces politiques... qui étaient, je vous le rappelle, la vignette auto pour les vieux, le minimum vieillesse, les hospices, les bons de charbon, les bons de sucre pour... bon, tout ça, c'était les vieux nécessiteux. C'est-à-dire qu'il y avait une construction du problème de la vieillesse comme une vieillesse pauvre. C'est vrai qu'à cette époque, les vieux étaient les pauvres de la nation. Et donc, cette pauvreté appelait des réponses en termes de mesures d'assistance telles que je viens de vous les évoquer. Et puis, on voit apparaître une nouvelle politique dans les années 60 et surtout dans les années 70, elle se concrétise, et en même temps qu'apparaît un nouveau vocable pour la vieillesse. C'est le troisième âge qu'a évoqué Claudine. Eh bien, le troisième âge, c'est une toute autre conception. Et à ce moment-là, on a une construction de la vieillesse, une construction du problème de la vieillesse. Le problème de la vieillesse, c'est plus la pauvreté dans cette période-là. C'est le problème d'une marginalité, d'une ségrégation. Et vous avez ce qu'on a appelé le rapport Larocque, qui inaugure une nouvelle façon de répondre, qui inaugure à la fois une construction, une nouvelle du problème social de la vieillesse, en même temps qu'il définit une nouvelle politique de la vieillesse, qui est une prise en charge à domicile. Donc l'idée, c'est qu'il faut lutter. Le problème de la vieillesse, c'est plus la pauvreté, c'est la solitude, l'isolement, la ségrégation. Donc la réponse, c'est maintenir à domicile et c'est surtout maintenir dans la vie normale. Donc fin des hospices, fin des maisons de retraite, plus de ségrégation, au contraire, des services à domicile, des équipements collectifs locaux, pour clubs de personnes âgées, clubs du troisième âge, on les avait appelés, les foyers logements comme substitut du domicile privé, hein, plus du tout les hospices. D'ailleurs, on va y mettre fin aux hospices. Donc on voit bien, et puis aujourd'hui, on pourrait reprendre la même analyse pour les seniors. Les seniors, c'est d'autres problèmes, notamment les problèmes d'emploi, et c'est d'autres réponses. Donc on voit bien que chaque politique publique construit à la fois le problème social et conçoit les réponses à ce problème. Donc ce que je voudrais, donc dans la foulée de ces remarques, vous dire que la division par l'âge pour ces politiques publiques, et notamment les politiques sociales, sur lesquelles je travaille particulièrement, l'État-providence, etc., la division par l'âge, c'est l'instrument essentiel de ces politiques, et c'est comme ça qu'elles gouvernent les populations. Donc, pourquoi ? Parce que, évidemment, l'âge, c'est une catégorie neutre, c'est une catégorie universel, et par conséquent, on va largement l'utiliser avec l'édification de l'État-providence pour en faire un élément d'ordre social, comment réglementer l'activité des individus, et donc ça devient le paramètre idéal et central pour gouverner les populations. Et effectivement, ces politiques publiques instaurent très largement des normes d'âge. Dès les premières lois sociales, c'est la réglementation du travail des enfants, par exemple. Donc, et ça se fait à partir d'âge. Il y a un âge, et ça définit l'âge de l'enfance, qui doit être à part du travail. Et comme dira Ariès plus tard, l'enfance va se construire à partir des politiques d'éducation. Comme il dit, la mise à l'écart, la mise à part et la mise à la raison des enfants dans des politiques d'éducation qui commencent d'abord pour les nobles et ensuite les bourgeois et puis bon, qui va se démocratiser. Mais on a déjà, à partir d'âge et d'âge limites pour le travail, les limitations du travail des enfants, on a déjà la construction de la catégorie de l'enfance, et bon, qui va s'étendre après, qui va devenir jeunesse, etc. Mais on a déjà cela en germe. Donc on voit bien que ce sont des polices des âges, au sens où c'est une façon, c'est la façon principale de gouverner les populations, de mettre de l'ordre public dans les populations, de définir à partir de quel moment c'est l'âge de travailler, ou c'est l'âge de se former, de se préparer au travail, ou c'est l'âge de quitter le marché du travail pour la retraite. Donc on voit bien que tout ça, ce sont des âges de scolarité obligatoire. Hein, âge de scolarité obligatoire, c'est à partir de jusqu'à quand on est jeune à l'école. Ensuite, ça permet de passer donc transition. Vous voyez bien que ces âges aussi définissent des transitions, c'est-à-dire la fin de cette période de jeunesse, l'entrée dans l'âge adulte, avec la possibilité d'entrer sur le marché du travail, et puis la retraite, donc l'âge de la vieillesse, finalement, très, très vite. L'âge légal de la retraite va devenir l'âge du début de la vieillesse. Et on va avoir une fusion entre ces deux temps, alors que et donc ça va socialiser les signes de la vieillesse. Avant, la vieillesse, c'était la décrépitude, les rides, etc. Et puis progressivement, avec la retraite, la vieillesse se définit comme une inactivité pensionnée. Elle prend le sens de retraite. Donc vous voyez combien les politiques publiques, avec leurs critères d'âge, scandent les parcours individuels et formatent les parcours. Donc, formatent les trajectoires de vie. C'est une façon d'organiser l'ordre public, mais en même temps de rythmer, de scander tous les parcours individuels. Et effectivement, avec le développement des États-providence, on voit très bien qu'il y a une institutionnalisation du parcours de vie et un formatage de ce parcours de vie à partir des institutions. Et bien sûr, la définition des âges de la vie, le contenu même des âges de la vie, de ce qu'on doit faire dans la jeunesse, on doit se former. Dans l'âge adulte, on travaille. Dans la retraite, on est inactif. Donc on voit bien qu'il y a des temps sociaux. Chaque âge, il y a une spécialisation des âges dans un temps social unique. Et ça, c'est tout le modèle industriel. Et donc l'organisation des âges de la vie permet de définir un rôle, des statuts et des contenus d'activité pour chaque étape d'âge. Donc, et en séparant chaque étape. Chaque étape est bien spécialisée, avec des transitions bien réglées, marquées par des âges. Donc on est soit enfant à l'école, on relève de la politique de l'enfance, on relève de la politique de la famille, des politiques d'éducation. On est adulte travailleur, et donc on a droit à une couverture étendue contre les risques majeurs, ça c'est le modèle industriel. Et ses ayants droit et les ayants droit, c'est-à-dire la famille de ce travailleur aussi. Donc, on voit bien comment toute la protection sociale va jouer. Et bon, on est inactif, retraité, etc. Donc, je reviens sur le modèle de la société industrielle, parce que Robert Castel a très brillamment rappelé qu'il y avait un couplage entre un statut pour le modèle industriel, ce qu'il appelle la société salariale. Il y a un couplage entre statut d'activité subordonné à l'employeur, le salariat, et la protection sociale extensive contre les risques. Ce sont deux choses qui vont de pair dans le système, dans la société industrielle. Et moi, je fais ma petite contribution à cet apport majeur de Robert Castel, parce que je m'intéresse aux temporalités sociales. Je pense qu'il est très important de réfléchir aux temporalités sociales qui vont avec ce modèle. Et les temporalités sociales qui vont avec ce modèle industriel, c'est la temporalité à trois temps, avec éducation, travail, retraite, avec ces deux transitions bien tranchées. L'entrée, le passage de la jeunesse à l'âge adulte, qui est aussi l'entrée sur le marché du travail, et qui, dans une période industrielle, correspondait aussi, parce que la vie privée, dans une période où le travail dominait, la vie de travail dominait tous les autres temps sociaux, et où les autres temps sociaux, que ce soit inactivité ou formation, s'indexaient sur le travail. Donc, la vie privée des gens s'organise aussi autour de ces événements d'entrée sur le marché du travail. Et on le voit très bien dans les données statistiques. Vous voyez très bien qu'à l'âge médian, à l'âge moyen d'entrée sur le marché du travail, eh bien, les jeunes fondent une famille, quelques années après ont des enfants, se marient, ont des enfants. Donc il y a une synchronie dans cette transition, c'est aussi une synchronie entre vie privée et vie professionnelle. Et puis, la retraite, je voudrais faire sur ce rythme à trois temps, ce qui caractérise le rythme à trois temps de la société industrielle, c'est aussi sa visibilité. Quand vous pensez que dans les années 70, il y avait une lisibilité parfaite du devenir, il y avait même des gens qui choisissaient leur profession en fonction de l'âge de la retraite. C'était le cas des instituteurs, par exemple, parce qu'on avait un âge de la retraite à 55 ans. Et quand on rentrait dans une profession, on savait exactement à quel âge on sortirait, avec quelle retraite. Tout ça était écrit. Il y avait une temporalisation longue, une possibilité de se projeter et une lisibilité de son parcours. Évidemment, je dis ça parce que dans la société post-industrielle, la société de la connaissance, dans laquelle cette lisibilité n'est plus du tout présente. Moi, je pense qu'à... Enfin, je l'ai observé. À 45 ans, un actif aujourd'hui ne sait pas à quel âge il sortira du marché du travail. Et quand on sait qu'on en sort à 45 ans, c'est très difficile d'y retourner. On sait que c'est du chômage de longue durée, de très longue durée même, et que les sorties sont plutôt vers l'inactivité que vers le retour à l'activité. Donc, on ne sait pas si on sortira à 45 ans parce que la boîte ferme et qu'on va être... ou si on sortira à 70 ans parce que d'ici là, il aura fallu toute cette durée de contribution pour avoir une retraite pleine. Donc, les choses ont complètement changé. Nous ne sommes plus dans le modèle de cours de vie à trois temps parce que le travail a changé et... que nous sommes dans une société post-industrielle, de la connaissance, ou appelez-la comme vous voulez, mais en tout cas, elle n'est plus dans ce rythme à trois temps. Et précisément, on peut la définir par un nouveau cours de vie flexible. Ce qu'on appelle un cours de vie flexible, je ne suis pas la seule à utiliser ce mot, et ce cours de vie flexible, ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus une vie de travail. La vie de travail durait dans la vie industrielle 50 ans en moyenne. L'OCDE a fait des calculs intéressants dans son rapport de 98 et il montrait que dans les années, fin des années 50, 60, la durée standard de vie professionnelle, c'était 50 ans de vie professionnelle sur 68 ans d'existence. Donc, on voyait bien, il y avait une courte formation et une très courte retraite, quelques années. Ça, c'était le rythme ternaire de cette époque. En 95, le même homme de l'OCDE, il travaille 38 ans sur 76 ans de son existence. Et l'essentiel de ces 38 ans qu'il passe hors de l'activité, donc la vie de travail s'est raccourcie, et on va voir que ce n'est pas le seul changement sur la vie de travail, l'essentiel, bon, la formation s'est allongée, on l'a vu, mais aussi la retraite s'est incroyablement allongée, la vie de retraite. Bon, évidemment, ça ouvre sur les questions de financement, mais ce n'est pas ça notre objet aujourd'hui. Mais c'est surtout que cette vie de travail de 38 ans, elle est aujourd'hui faite d'aller-retour incessant, d'interruption, alors que c'était une 50 ans de vie continue. Aujourd'hui, on sait bien qu'on n'aura plus un seul métier au cours de la vie, qu'on en fera plusieurs, qu'on aura besoin de formation. Donc, ce cloisonnement des temps sociaux pour chaque âge est complètement invalide aujourd'hui. Au contraire, à chaque âge, on mêle, les temps sociaux s'enchevêtrent. Et bien sûr que les politiques publiques qui ont, dans cette société industrielle, contribué à séparer les âges et à définir une activité, je me permettrai le mot de monochrone, hein, c'était des âges monochrones. Eh bien, nous sommes dans la polychronie. Nous sommes dans des temps enchevêtrés à chaque âge. Et même pour la retraite, il a été évoqué dans la discussion tout à l'heure, le fait que les retraités conservent une activité de travail libre. C'est plus rémunéré, mais c'est libre. Ils font du bénévolat. On sait qu'ils se sont engagés massivement. C'est des chiffres importants. Ils sont les piliers de toutes les associations et les piliers du bénévolat. Pour moi, j'ai appelé ça la retraite solidaire. Et c'est plus la retraite solitaire, parce que j'ai fait un livre dans le temps qui s'appelait « La retraite, une mort sociale ». Donc, c'est plus la retraite solitaire des années 70. C'est la retraite solidaire qui mélange les temps sociaux. Parce que ces personnes aspirent à de la formation, parce que souvent elles sont des primo-bénévoles. Donc elles ont besoin de découvrir ce monde du tiers secteur. Et en même temps, il faut garder du temps pour soi, du temps pour la famille. Donc, il y a un agencement. On veut prendre le pouvoir sur son temps et l'agencer. Et donc, on va gérer cette intrication des temps sociaux. Mais il y a aussi une revendication de ces temps sociaux. On veut quand même garder du temps pour la famille, etc. Donc, il va y avoir une gestion. En tout cas, il y a une forte aspiration, une gestion autonome de ce temps.
Je ne peux pas m'empêcher de la faire. Il y a aussi une aspiration de ménager du temps d'échange avec la salle. Mais je vous laisse terminer.
Oui, oui.
Bon. Non, allez-y. Pardon.
Non, je voulais quand même revenir sur ce brouillage des âges. Bien sûr. Parce que c'est quelque chose d'important. Et c'est le sujet du jour. Et ça a été évoqué par d'autres orateurs ici. Alors, ce brouillage des âges, pour moi, c'est très important. Parce que il renvoie au fait qu'aujourd'hui, nous n'avons plus cette spécialisation des temps sociaux à chaque âge. Nous avons, par exemple, la formation tout au long de la vie. La formation tout au long de la vie, ça veut dire qu'il y a de la formation à tous les âges, que la jeunesse n'a plus l'apanage de la formation. Et de même, le non-travail, l'inactivité, est quelque chose qui est revendiqué à tous les âges. Regardez le succès incroyable des congés parentaux d'éducation partout en Europe. Ça veut dire que les jeunes parents réclament aussi du temps d'inactivité indemnisé, comme les retraités, mais par rapport au temps pour l'éducation des enfants. Ça veut dire que, une remarque, ça veut dire que les temps privés et les temps professionnels ne sont plus synchronisés dans ces nouveaux âges de la vie. ils ne sont plus synchronisés. Et c'est pour ça qu'il y a une telle insistance au niveau européen et dans tous les pays pour conciliation vie familiale, vie professionnelle. Pourquoi ? Parce qu'avant, ça se faisait tout seul. Maintenant, il faut des politiques publiques pour le faire. Brouillage des âges, pour moi, c'est très important. Guillaume a parlé d'irréversibilité et de réversibilité aujourd'hui. Ça, c'est très important. Les transitions. Avant, la vie à trois temps, les principales transitions, c'était l'entrée sur le marché du travail et c'était la sortie vers la retraite. Maintenant, vous avez des transitions incessantes. Dans toute la vie de travail, vous allez passer de la formation, des années sabbatiques pour changer de métier, du chômage. Vous allez faire des allers-retours permanents. Donc les risques, le profil des risques sociaux a complètement changé. Le profil des risques, il est à chaque transition. Donc maintenant, il faut assurer les transitions. Assurer au sens assurance sociale, si vous voulez. Assurer les transitions, c'est là que sont les risques. Et ces transitions, elles ne sont pas au début de la vie et à la fin de la vie, elles sont tout au long de la vie, tout au long de la vie de travail notamment. Donc ça change la manière dont on va concevoir, dont on doit concevoir les politiques publiques. Et mon point, une dernière, voilà, ça en passe. Où est-ce que
sur
je mets ?
Sur les préconisations,
voilà.
C'est ça.
Voilà.
Très bien.
Donc. Mon propos est de dire que l'âge n'est plus la catégorie pertinente de gestion des populations. Au contraire, ce qui est pertinent, c'est le parcours et notamment toutes les transitions. Donc il faut balayer la notion statique de l'âge, mais vous voyez combien en France on est décalé par rapport à ça. Parce qu'on a fait encore une réforme des retraites en 2010, dont l'âge est le principal... Et le principal déterminant, c'est l'instrument majeur. Donc, il faut changer de notre mode de gestion des âges. Parce que, effectivement, il y a le brouillage des âges. Donc, ce qui compte, c'est les multiples transitions, les parcours. Nous ne sommes plus dans un rythme à trois temps. Donc, il faut en finir avec une gestion par l'âge. Et passer une gestion, ce que j'appelle la diversité, la synergie des âges, mais qui est en fait le parcours. Le problème, c'est qu'en France, si en comparaison internationale, la France reste extraordinairement centrée sur des âges. Si vous regardez le plan emploi senior, moi j'ai beaucoup travaillé sur l'emploi des seniors, etc. Si vous regardez les plans emploi seniors, les actions, ça a été évoqué par Claudine aussi, le dernier plan d'emploi senior, etc. Vous vous apercevez qu'il y a l'âge. Alors c'est tout 50 ans, 55 ans. Il y a l'âge où les entreprises doivent faire un plan pour embaucher des gens, c'est 50 ans. Un plan où pour maintenir les gens, c'est 55 ans. Ça n'a plus aucun sens. Pourquoi ? Parce qu'à 50 ans, vous avez des gens dans des situations différentes. Avant, les gens au même âge étaient dans des situations standards. Vous pouviez dire que quelqu'un à 30 ans était un jeune père de famille, etc. Aujourd'hui, quelqu'un à 50 ans, il peut être il peut être... La parentalité tardive, aujourd'hui, s'est développée. Donc, celui qui a eu des enfants jeunes et qui est dans un phénomène de nid vide, il n'a pas la même stratégie de retraite, de départ en retraite, que celui qui a 50 ans et qui a des jeunes enfants en scolarité. Donc, ça n'a plus aucun sens de mettre un âge légal de la retraite. Ça n'a aucun sens. Il faut aller vers les dispositifs mis en œuvre en Finlande ou en Suède, qui est de faire une retraite avec un âge plancher. Il faut bien définir un âge à partir duquel vous pouvez liquider votre retraite. Et à partir de là, on met des mécanismes incitatifs pour que les gens prolongent leur activité, c'est-à-dire des surcotes, comme on les a appelées dans le système français. Et la Finlande a fait ça. Donc 60 ans, on peut partir à la retraite. Mais à partir de 55 ans, vous avez des surcotes. Et donc si tout ce que vous travaillez après 55 ans... vous rapporte plus en termes d'annuité de retraite. Et si vous travaillez après 60 ans, c'est encore plus. Si vous travaillez après 65 ans, c'est encore plus. Et donc, vous ils peuvent partir à partir de 60 ans et ils peuvent calculer leur retraite. Et donc, ils vont partir. Il y a des gens qui peuvent, ils souhaitent arrêter tôt, même avec une petite retraite, parce que le conjoint a une meilleure retraite, etc. Donc, choix de vie. Mmh. Choix de vie, ça devient essentiel. Mmh.
Pour faire la transition, si vous le voulez bien, merci beaucoup. Oui, oui. Merci beaucoup. Pour faire la transition, mais on prendra quand même des questions avec ce qui va suivre. La question est de savoir, c'est si, en attendant que les pouvoirs, les politiques publiques s'ajustent. Ah voilà, à ce stade. Oui, mais je parlais des politiques publiques. Ah, oui, on est d'accord. Il faut peut-être braquer les regards sur la société, ce qui émerge. Et justement, ça sera l'objet des interventions qui vont suivre. Mais auparavant, peut-être des questions. J'ai bien aimé, été très intéressé par cette manière de vous montrer comment cette vie à trois temps a valser, en somme. Hein. Mais alors, si on vire vers une autre image, ça serait quelle danse pour caractériser la valse à mille temps. Voilà.
Oui, oui.
Question, interrogation. Merci beaucoup, c'était très clair. Monsieur.
Vous avez parlé des transitions.
Oui.
Effectivement, c'est le nœud du problème. Particulièrement, on voit ça dans la formation des étudiants. Un étudiant, on sait très bien, un étudiant sortant de l'université, même à Bac plus 5, a de fortes probabilités pour devoir changer d'orientation au bout de 10 ans.
Et bien sûr.
Et il faut lui donner, même d'ailleurs, ça me permet d'introduire un aspect de la question de la transition, c'est que dans la formation estudiantine, il va falloir un jour ou l'autre qu'on arrête de mettre des barrières et de rester sur un monodisciplinaire dur, pur et dur, qui débouche sur l'incapacité à assurer cette transition. Il est trop tard, je l'ai dit en son temps, mais c'est trop tard maintenant. Les transitions, comment les voyez-vous?
Alors,
et comment les faciliter?
Oui. Alors, dans la slide, là, il y a fluidifier les transitions. Puisqu'il y a des allers-retours permanents, il faut fluidifier. Et nous sommes toujours en France dans un cloisonnement des activités. Par exemple, nous sommes parmi il a été évoqué le travail de Cécile Vandevelle, qui est un travail remarquable sur les jeunes et la transition vers l'âge adulte. Et elle compare différents pays et elle montre, par exemple, au Danemark, tout est fait pour fluidifier les transitions, pour mettre les jeunes en contact avec l'emploi, pour leur donner du temps indemnisé pour prendre des sabbatiques. Par exemple, après le système secondaire, beaucoup partent prendre un an. Et alors, j'avais un collègue qui me disait, parce qu'on travaillait sur les cycles de vie, « fooling around ». Les jeunes fooling around. Bon, mais oui, parce qu'ils peuvent prendre des sabbatiques. Et c'est impensable en France. Parce que si vous prenez une sabbatique en sortant du bac, vous êtes foutu. Vous serez jamais dans l'élite. Parce qu'il faut passer les concours des grandes écoles très jeunes. Déjà, ils sont programmés. Donc, on voit bien qu'on est dans une situation de fou. Ce que disait Guillaume sur l'importance de l'autonomie, de la maturation, etc. Dans les pays comme le Danemark, comme les pays scandinaves en général, on accompagne cette autonomisation pour les jeunes. Donc, on n'a pas cette... On leur permet le passage d'un temps social à l'autre. On leur facilite. Alors que tout est fait chez nous pour mettre des barrières. Il n'a pas l'âge, il n'a plus l'âge. On est dans des barrières incroyables et largement encore sur le mode de l'âge.
Madame, alors micro pour qu'on puisse... J'espère que le micro fonctionne encore, qu'il n'est pas...
Au niveau des trois âges de la vie dont vous avez parlé, autrefois, c'était plutôt des âges physiologiques. L'enfance, la fécondité, la maternité. Et une fois que les enfants étaient partis, beaucoup de femmes ne travaillaient pas jusque dans les années 70. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas coupler des âges, justement, entre la nécessité d'élever les enfants et donc des passages du travail au non-travail? Et ça fait tant d'annuités nécessaires pour constituer une retraite. Parce qu'on a évolué quand même beaucoup au XXe siècle vers le travail maximum des femmes, ce qui n'était pas quand même toujours le cas pour toutes les catégories sociales autrefois.
Nous avons des dispositifs comme ça pour le nombre d'enfants. Y a des bonifications de retraite pour les enfants élevés, etc. Donc ça rentre dans le calcul des retraites. Bon, maintenant, comme il y a eu une directive européenne de discrimination contre le genre, donc effectivement, les pères en profitent aussi maintenant. Donc le calcul est... Mais c'est un système qui existe, on pourrait le développer. Mais en tout cas, ce que j'ai dit, moi, sur les rythmes à trois temps, c'est d'abord social. Hein, c'est assez peu lié, pour moi, c'est assez peu lié au biologique, désormais. C'est vraiment, on voit bien que c'est une logique de gouvernement des populations, des manières de les placer dans un statut, une fonction, de leur faire suivre un certain type d'activité. Et c'est ce cloisonnement qu'il faut faire exploser. Et les politiques publiques aujourd'hui, c'est une gestion du parcours, c'est-à-dire... Nos politiques à l'égard de l'âge des seniors, par exemple. Nous n'arrivons pas en France à créer de l'emploi pour les seniors. Pas plus que pour les juniors. Pourquoi ? Parce qu'on fait de l'emploi jeune et de l'emploi senior. On a fait le CDD senior, il n'y a personne dedans. Il y a eu 20 contrats signés depuis 2006. C'est une victoire. On voit bien que, bon, et donc on reste toujours à 39%, c'est-à-dire il y a à peine plus d'un tiers des seniors qui sont en emploi entre 55 et 64 ans. On est en lanterne de l'Europe en termes d'emploi des juniors. Pour moi, c'est la même chose. C'est-à-dire que les mesures d'âge, que ce soit pour les jeunes ou pour les vieux, créent de la discrimination à l'encontre de l'âge dans l'emploi. Et donc... bien sûr, ça a affecté les seniors, parce que ils n'ont plus l'âge d'être au travail, ils sont dépréciés, et l'âge est devenu un critère légal pour les mettre en pré-retraite. Et de l'autre côté, ça n'est pas sans affecter les juniors, parce que les juniors, les vieux, ils ont des compétences obsolètes, les jeunes... ils sont considérés comme étant inexpérimentés et donc on les garde à la porte de l'emploi ou dans les marges. Et donc pour moi, c'est vraiment à cause de l'âge. L'âge, dès lors qu'on fait des mesures d'âge, on introduit de la discrimination à l'encontre de l'âge.
Parce qu'il y aurait plein d'autres questions, oui, notamment oui, celle de savoir comment justement faire sortir ces catégories que tout un chacun a intégrées, alors même qu'elles sont la production des politiques.
Dans les prochains programmes, j'ai lu ça dans le journal, dans les prochains programmes de la gauche, il est prévu qu'il y ait des exonérations pour les entreprises si on embauche un jeune et un vieux.
Oui, ça c'est Hollande, c'est contrat de génération.
Il faut résoudre le problème, mais dit comme ça, c'est terrible, quoi.
Bon, Anne, on ne fait pas de politique.
Je dis simplement ce que j'ai lu. Je dis, madame, fait de la politique. Vous démontrez aussi que c'est intéressant que la notion d'âge est une construction sociale. C'est très intéressant parce qu'on a l'impression, justement, que quand on est catégorisé, il faut rentrer dans cette catégorie. Donc, comment sortons de cette catégorie? Et ça, c'est passionnant. Et
ça crée des effets pervers, terribles, dans lesquels nous sommes en France.
Vous restez avec nous ?
Oui, bien sûr.
Alors,
merci, madame.
Merci beaucoup,
Anne-Marie
Guimard. Et je demande la... C'est du bonheur, c'est cette soirée, parce que pour la parité est pleinement assurée, même elle est carrément là pour le coup. Voilà, il y a deux places ici et puis une troisième ici. Est-ce que je peux être voilà? Oui, c'est juste. Et Gisèle ici. On est dans le prolongement d'Anne-Marie Guimard, mais on prend le problème là par l'autre bout, c'est-à-dire la société, comment la société civile réagit à cette problématique, innove pour essayer d'aménager, de permettre à des catégories de population de vivre pleinement l'allongement de l'espérance de vie dont on bénéficie. Eh bien, le propos de cette table ronde, qui est carrée, c'est de rendre compte de différentes initiatives, actions destinées à mieux faire comprendre les besoins, les attentes des catégories de population, notamment dites âgées. Alors, on va commencer, il faut bien commencer, on va commencer par vous, Marie-Françoise Fuchs, que je suis ravi de revoir. On s'était rencontrés sur une thématique à peu près similaire à Laval. Et vous allez témoigner sur Hold Up. Alors, rassurez-vous, inutile de lever les bras, puisque c'est OLD apostrophe.
Il faut quand même les lever.
Oui, mais
prendre les choses à bras le corps.
Voilà. Avant d'en venir, rappelez-nous un peu votre parcours, parce que vous avez. Voilà, j'ai complètement perdu mes fiches, voilà, mais ce n'est pas grave. Alors, vous êtes médecin psychiatre.
Pas psychiatre.
Psychothérapeute ?
Oui.
Voilà, très bien. Et vous avez déjà des expériences dans la création d'associations destinées, notamment pour l'une d'entre elles, à mieux faire comprendre les attentes des grands-parents, c'est
oui.
ça ?
Oui. Enfin, maintenant, on s'occupe de hold-up, c'est-à-dire qu'on essaye d'être dans le concret pour répondre aux questionnements que Mme Guillemard a soulevés et qui sont tout à fait réels. Alors moi, plus bêtement, malheureusement, mais quand même, je dis aux personnes qui nous rejoignent, puisque nous nous occupons spécifiquement, plus particulièrement, de la deuxième étape de la retraite, c'est-à-dire des plus de 70 ans, en gros. Notre population est majoritairement de 75 à 85. Et nous estimons que nous avons une responsabilité, justement, de sortir de ce rôle qu'on nous a assigné, de trouver les moyens de nous lever et de donner et du sens et de l'utilité à cet allongement de la vie qui nous est donné et offert. Alors, concrètement, nous essayons par tous les moyens possibles. D'abord, alors, j'appelle ça des CDD maintenant, c'est-à-dire que les transitions, nous les vivons. Notre génération est soumise aux mêmes impératifs, aux mêmes vagues, si je puis dire, de la civilisation que les autres. Et nous aussi, quand nous commençons à prendre notre retraite, on fait des projets, mais ces projets, ce sont des CDD. Et par exemple, nous avons pas mal de gens qui se sont investis dans des associations précédemment et ils ont été chassés par l'âge. Donc, il y a des transitions et ils ont été chassés par l'âge, soit par l'environnement et les autres personnes de l'association, soit par leur propre santé. Par exemple, nous avons 3 ou 4 personnes qui étaient chez les petits frères des pauvres et qui ne peuvent plus. Et la transition est toujours une crainte du vide, une peur de tomber dans la dépression et de ne plus trouver les projets à faire. Alors, nous sommes tout à fait conscients et nous savons que c'est là qu'il faut accompagner, c'est là qu'il faut prodiguer, si possible, proposer une formation continue qui permette de rebondir, de faire un bilan de ses compétences, plutôt que de ses pertes. On les connaît, les pertes du vieillissement, mais on ne cherche que très rarement à faire la liste des compétences qui nous restent, nos possibilités, et de là, de trouver des voies pour de nouveaux projets. Il y a des milliers de projets, c'est formidable parce qu'on parcourt le monde et la vie. C'est extraordinaire, les promesses que nous donnent. Ce sont des renaissances. Vieillir, c'est un miracle. C'est extraordinaire. Ça nous ouvre des horizons fabuleux, mais à condition d'être ensemble. Et je crois que les associations sont un atout majeur. C'est-à-dire qu'on a besoin du groupe, on a besoin de se renforcer les uns sur les autres. Et on a besoin, quand on est dans un groupe comme ça, on s'étaye mutuellement et on a le courage d'aller de l'avant, de se former. Alors nous avons du reste fait un manifeste avec plusieurs autres associations pour la formation continue à tous les âges de la vie qui commence à devenir quelque chose qui prend forme. Mais c'est essentiel parce que nous, si nous ne participons pas à une formation, nous ne pouvons plus participer à la vie, nous ne pouvons plus être utiles. Les gériatres tous disent que bien vieillir, la condition numéro un, c'est d'avoir une activité, c'est d'avoir des relations sociales et de se sentir utile. Alors, nous, pour ça, nous proposons, par exemple, de nouvelles activités. On est à la recherche aussi de sortir du traditionnel aide aux petits-enfants, aide aux personnes qui sont hospitalisées, etc., mais d'initier de nouvelles activités. Alors, on a trouvé quelques pistes et puis on cherche à en trouver constamment parce que je crois que nous avons des possibilités qui tiennent à notre âge. Par exemple, nous faisons des diagnostics dans des lieux publics pour montrer qu'est-ce qui pourrait être transformé et permettre aux personnes plus fragiles de participer et de pouvoir aller dans ces lieux publics. Alors, on a fait des diagnostics dans des musées, dans des hôpitaux. Et là, récemment, on vient de terminer avec les galeries Lafayette. C'était un gag. Mais ça a été passionnant parce qu'on s'est aperçu que, bien sûr, c'est la caverne d'Ali Baba, les galeries Lafayette, boulevard Haussmann à Paris. Mais il y a le pile et le face de cet émerveillement, d'un côté, de voir tout ce qui nous est proposé, mais c'est une forêt dans laquelle on ne peut pas se repérer. On est perdu, on est bousculé et on n'est pas accueilli. Donc on a fait des préconisations, enfin on a proposé plusieurs choses et ils ont l'air très contents. J'espère que ça va un tout petit peu faire changer. On essaye constamment de faire changer l'image du vieux. Le vieux, c'est le seul qui sait quand il arrive qu'il est perdu, qu'il ose le dire. Il dit, personne ne nous accueille. On vient chercher un petit plan. Les gens, à l'accueil, les jeunes filles ne pensent même pas à dire, mais si vous venez nouvellement, alors est-ce qu'on peut vous aider? Vous savez qu'on a des quantités de possibilités pour vous descendre vos paquets, tout au rez-de-chaussée, ou pour vous accompagner à ci ou ça. Il n'y a pas d'accueil. Alors, les responsables avaient l'air très intéressés. J'espère qu'ils vont nous redonner justement un appui. Et
on reviendra sur cet aspect des choses avec Marion. Moi, voilà, justement.
Alors, nous faisons, indépendamment des nouvelles activités qu'on a trouvées, et en particulier pour la recherche médicale aussi, où nous servons de témoins actifs, on a mis en place des formations, et en particulier le numérique au quotidien, qui est une nouveauté. Et pour nous, mais c'est en train de se mettre en place. On a déjà inauguré, ça y est, on a fait quelques séances. C'est une merveille, on rigole ensemble, on est ravis. Alors, on fait les bornes SNCF, les bornes RATP, toutes les bornes.
Ça veut dire quoi concrètement faire les
bornes?
Ça
veut dire qu'on va en petits groupes de 5 ou 6 et on a trouvé une association d'étudiants qui nous aide. Ils viennent, ils nous montrent. Ils sont charmants, alors on rit avec eux. Alors, il y a 7 ateliers possibles où on peut s'inscrire. Certains sont complètement gratuits, quelques autres, on demande 10 euros. Mais par exemple, alors, la première chose, c'est les bornes. C'est indispensable si on veut, même si on nous met des plans inclinés, si on ne sait pas se servir des bornes, dans tout ça, on est mort. On ne peut plus être utile, on ne peut plus donner du sens à tout ce temps. Alors, on fait en second, on a mis en place les appareils de loisirs. Alors, par exemple, vous avez les petites caméras, les petits appareils de photo dont nous sommes incapables d'utiliser les différentes possibilités. Le GPS, naturellement, tous ces objets dont on a besoin si on veut rester présent dans la société, implanté. Alors, le troisième atelier, c'est les outils ménagers, parce que nous nous sommes aperçus, comme nous avons un public très âgé, souvent. D'abord, nous sommes la seule association qui accueille à bras ouverts les gens qui ont plus de 85 ans. Hein. On a des membres qui ont 90, 91, 92 ans, qui sont formidables, qui apprennent à se servir d'un ordinateur. C'est formidable. Ils sont enchantés. Alors, donc, nous avons vu qu'ils ne savaient pas, on devient tous un peu sourds, c'est une horreur, mais alors, ils ne savent pas mettre les sous-titres, ils ne savent pas enregistrer une émission qui les intéresse. Mmh. Alors, on a avec ces étudiants, on a un contrat, ils peuvent aller à domicile et vous montrer, vous faire répéter, vous mettre à même d'utiliser ces machins, le four qu'on doit programmer, etc. Bon. Alors, ça, c'est le troisièmement, c'est les appareils ménagers. Le quatrièmement, ce sont les téléphones, parce que nous ne sommes pas capables d'utiliser 1% de ce que le téléphone nous propose. Alors, on a besoin, on s'est aperçu, parce qu'il faut dire qu'on fait ça gaiement et c'est assez rigolo, mais c'est qu'on a vraiment du mal. Il nous faut presque des leçons particulières. On ne peut pas être des grands groupes. Il faut qu'on soit peu, qu'on aille lentement. On ne peut pas tout savoir, mais on peut tout apprendre si on prend le temps et si on prend une méthode qui convienne. Alors, on arrive, on a même redemandé, on a commencé avec les appareils de photo, ça a été la découverte d'un monde qu'on avait complètement omis de voir, et on a repris rendez-vous, on a eu une séance, on fait des séances d'1h15, pas trop longues, comme pour les enfants, pas d'attention trop soutenue trop longtemps, dans la journée, à des heures possibles. Ensuite, évidemment, les ordinateurs. On a trouvé avec l'hôpital Bretonneau un enseignement gratuit pour les gens qui n'ont jamais touché à une souris, ni à un écran, ni à rien. Et puis, on fait des perfectionnements. Alors, ce matin, on avait un perfectionnement sur le classement sur l'ordinateur. Alors, on était, bon, c'est très amusant parce qu'on fait ça en petit groupe, ça stimule. Bon. Alors, on a ensuite, bien sûr, les choses un peu plus compliquées, les jeux interactifs, etc., sur ordinateur, et puis les réseaux sociaux. C'est le dernier des modules ou des ateliers. Enfin, bon, je ne vais pas prendre tout le temps parce qu'il y a d'autres gens qui doivent parler. Mais si vous voulez, on est vraiment branchés, on tire la charrette, c'est dur, mais on a des satisfactions formidables. Il y a des dames qui sont venues, qui ont 85, 86 ans, qui disent « Je suis arrivée ici, je me trouvais en infériorité par rapport à tout. Et aujourd'hui, j'ai presque un complexe de supériorité. »
Alors, bon, alors, c'est tout. Non, justement, merci beaucoup. Mais justement, émulation. Non, c'est super. Alors, une question avant de poursuivre le tour de table. Je me mets à la place d'un opérateur, d'un fabricant de matériel, d'ordinateurs, etc. Vous devez sacrément les intéresser en termes de retour d'expérience.
On essaye de se faire connaître. Ah. Alors, je vais vous dire, on a la chance, vous nous donnez la parole. Plusieurs personnes maintenant commencent à voir, qu'on faisait quelque chose, justement. Alors, on nous demande de venir parler. Donc, on a beaucoup de chance. C'est comme ça que petit à petit les choses vont avancer. Moi, j'espère, je ne suis pas du tout pour garder un truc comme ça. Moi, sur toute la France, je suis incapable.
Ah oui.
Il faut que ça se fasse dans les différentes mairies. Les CCAS s'en emparent. Alors, on lutte pour essayer de réveiller les. Parce que c'est à nous de lutter pour imposer le fait que nous avons des choses à apporter à la société. Nous ne sommes pas qu'un fardeau qui consomme des médicaments et des loisirs et qui en demande toujours plus. Nous pouvons apporter beaucoup à condition que on se mette en mouvement, qu'on se réveille et qu'on montre nos capacités et pas uniquement nos déficits.
Bon, nous sommes d'accord, on pourrait écouter Marie-Françoise des heures, mais on va être raisonnable, on va poursuivre le tour de table, d'autant qu'il y a d'autres sujets d'émerveillement. Merci beaucoup, Marie-Françoise. Avec toi, Gisèle Bessac, qui est à l'initiative d'une autre belle aventure, c'est les maisons ouvertes. Alors, pendant que je te laisse retrouver tes slides, comme on dit en mauvais français, je précise, comment Gisèle, que tu as un cabinet de conseil qui a vocation à accompagner des projets à formuler des préconisations pour les aménageurs d'espace à vocation sociale, médico-sociale ou socio-culturelle.
Non.
Voilà.
Non,
mais c'est bon.
Ah
ben, tu as bien fait. Alors, est-ce que, justement, voilà, je crois que c'est bon. Et puis ensuite, je crois.
Voilà.
Voilà, vous avez eu un cours en direct de manipulation de diaporama.
J'ai un PowerPoint.
Vous m'avez dit
de pas le prendre.
J'ai dit, mince alors. On aurait une belle démonstration de. Alors.
J'arrive pas à arriver sur plein écran, mais bon, voilà.
Je pense que comme ça.
Non, ça ne va pas être grave, hein. On va s'en tenir là. Oui, mais ça ne se déclenche pas.
Regardez, la vie est belle.
Merci beaucoup. Merci, Sylvain.
Voilà, et ensuite on fera un jeu de chaise.
Lui, il sait faire tout.
Ouais, un homme orchestre. Alors, comme Sylvain l'a présenté, mais je n'ai pas entendu la présentation.
Je te laisse justement le soin de présenter ce concept.
Donc moi, en fait, j'ai travaillé pendant 10 ans sur un prototype, avec l'idée de prototyper, comme on fait en design, qui est de faire un essai à petite échelle dans un quartier pour inciter de la transformation à la fois dans nos représentations. Alors moi, c'était particulièrement du vieillissement et des questions entre les générations. Et puis, comment répondre aux besoins et aux évolutions. Et puis, ça a été mené pendant 10 ans. Et puis, effectivement, les politiques publiques, on n'a pas réussi à les convaincre de rentrer dans des changements qui permettaient de perdurer ce modèle. Mais à partir de cette expérimentation, sur laquelle on a calé énormément de méthodes et de formation et d'expérimentation. Enfin, donc maintenant, j'accompagne des dispositifs publics ou privés qui touchent le domaine social, médico-social et qui permettent de mettre en œuvre, sans avoir à bouger la législation, beaucoup de choses qu'on a expérimentées pendant ces 10 ans. C'était le but, voilà. Donc, je vais surtout donc parler des principes et des méthodes et de la manière d'appréhender les choses. Et puis, c'est illustré par des exemples pour simplement se donner l'image de ce que ça donne concrètement. Alors, tout d'abord, les principes fondamentaux. Qu'à tout âge, on est dans une dynamique de transformation et de création. Et qu'il n'y a pas un moment dans la vie où ça s'arrête, et que ça peut prendre des formes très différentes, ça peut être même plus ou moins intériorisé, ça peut être sur des échelles de territoire, voilà, ça peut prendre vraiment des formes différentes, mais on ne peut pas dire que les choses sont statiques, sont cloisonnées, sont figées, sont établies par avance, mais qu'on a tous le pouvoir en tant qu'individu de transformer notre vie à chaque instant. Et que c'est bien la définition de la vie même, dont le fait du vivant, c'est un processus constant de transformation. Si on reste immobile, on tombe. Hein? Voilà. Non, mais. Ouais. Donc, ça, c'est le fondement même. Et qu'est-ce qui m'a amené à ça? C'était aussi, ça a été tellement bien présenté précédemment, c'est que les politiques menées ou les dispositifs existants renvoient une identité aux gens qui est perverse, puisqu'elle les amène dans un sentiment d'eux-mêmes qui les ferait plutôt régresser ou qui les ferait plutôt se dévaloriser. Donc plutôt que d'amener les gens à se regarder comme des gens debout jusqu'au dernier souffle, jusqu'à la mort, et dès le plus jeune âge, on a tendance à finalement s'apesantir sur nos pertes, nos manques, nos empêchements. Et quand il y a une fragilité, quand il y a une perte, quand il y a une incapacité, à n'importe quel âge, que ce soit un handicap physique ou un handicap mental, on est systématiquement exclu. Alors qu'en fait, on pourrait se dire que la fragilité, la perte, le manque, c'est intrinsèque au vivant. Qu'à tout moment de notre existence, on peut être confronté, plus ou moins, nous-mêmes ou notre entourage. Et qui a dit que être vivant, la normalité du vivant, c'est comme un produit industriel sans défaut? C'est une aberration. Et donc, de fait, on n'arrête pas d'avoir une ligne de plus en plus étroite et les bords des chemins de plus en plus remplis. Hein? Ça, c'est absolument aberrant. Voilà. Donc, d'où l'idée de faire des dispositifs de tiers-lieu en ville. Moi, mon idée, c'était d'abord de créer l'alternative au club de troisième âge en disant « mais cet âge n'existe plus ». Et si on considère qu'on est tout le temps dans un potentiel, dans une dynamique de transformation, alors il faut pouvoir avancer à partir de ces potentiels et aussi de se baser sur une chose que l'on peut remarquer là au niveau international, c'est que de plus en plus les gens prennent des initiatives et se positionnent avec des choix et font en sorte que leurs choix individuels résonnent dans la vie locale. Hein, ça, on peut le voir un peu partout dans le monde. Et que peut-être... Alors moi, c'est vrai que je viens du monde du design et que j'ai adopté, comme un monsieur Jourdain qui ferait de l'approche, j'ai adopté tous les systèmes du design dans les dynamiques d'usage et les conceptions de la sphère médico-sociale. C'est-à-dire, donc de partir de, premièrement, des représentations différentes des publics qui posent, quelles que soient les pertes et les difficultés et les fragilités, une dynamique de potentiel et une dynamique d'initiative, et qui fait en sorte donc de faire du lien, justement, du lien, hein, et de considérer que quelqu'un peut être en difficulté, mais peut en même temps avoir du potentiel. On est toujours dans le « ou », mais utilisons le « et ». Hein, ça éviterait de... Voilà. Alors, 3 images. La maison ouverte, donc dispositif d'accueil, de proximité, parce que c'est la dimension dans laquelle on peut se rencontrer physiquement et donc se connaître et se reconnaître et se voir différemment entre générations et entre nous. Ensuite, avec à la fois les modèles pour développer du bien-être physique, psychique et créatif, et à la fois des dynamiques plurigénérationnelles à travers la créativité et les réflexions sur l'environnement. 2e image qui est en haut, c'est avec la 27e région, la participation à la réflexion. La 27e région, c'est un laboratoire d'innovation pour les politiques publiques des régions, et on a préfiguré une maison de santé en Auvergne en se basant justement sur la réalité du territoire, sur la spécificité. On est dans des politiques cloisonnées et hyper généralistes, alors qu'en fait, souvent, la résolution des problèmes, elle est de se caler et d'accepter la réalité telle qu'elle est, de la considérer dans ses singularités et dans toutes ses complexités, et à partir de là, de faire de la dentelle, hein, qui permet d'utiliser les potentiels, les dynamiques, tout en considérant les empêchements, pour créer du sur-mesure. Et là, par exemple, cette maison de santé, c'est parti d'un cabinet de cabinets de professionnels de santé, et c'est arrivé sur du lieu qui avait une fonction sociale plurigénérationnelle sur le territoire et qui répond à des dynamiques plus larges et des problématiques plus larges que celles d'aller se faire soigner dans un cabinet. Voilà. Et la troisième image, c'est un exemple anglais qui s'appelle Southwark Circle et qui est fait pour répondre aux problématiques des personnes âgées, mais qui en fait est un réseau de membres participatifs où il y a autant des gens qui aident que des gens qui reçoivent, et il y a le fait de se connecter. Donc il y a eu un travail avec des designers pour à la fois comprendre les usages et les modes de vie sur le territoire, mais faire en sorte d'avoir des outils numériques que les gens peuvent vraiment s'approprier de manière très conviviale. Et il y a tout un réseau qui fait que les gens, effectivement, ont les services dont ils ont besoin, mais aussi s'entraident, s'informent et prennent des initiatives ensemble. C'est trois petites touches pour montrer les formes que peut prendre cette représentation, voilà, de ce que peut être un service, quoi. Ensuite, ce qui est très important, ce sur quoi je trouve j'attache beaucoup d'importance, c'est une approche systémique. Alors, c'est vrai que c'est de toute façon la posture d'un designer, parce qu'un designer est confronté à des cahiers des charges très complexes, que ce soit sur n'importe quelle conception de produits industriels, quand on le ramène à des questions de service et de vie sur un territoire, ça paraît évident qu'il faut autant penser à l'échelle intime pour que chacun, dans son parcours spécifique, son identité spécifique et ses changements intimes et personnels, on est singulier, on est multiple aussi. Donc ne soit jamais taillé dans les fourches codines de la normalité et se retrouve toujours étranger à lui-même là où il se présente. Donc la dimension intime, en même temps la capacité et la dynamique de faire ensemble, et en même temps la spécificité territoriale pour être ancrée sur la singularité du territoire. Et ça, je trouve que c'est très important de pouvoir penser à la fois cela, et dans les lieux que l'on crée, de penser à des rythmes de vie différents, à la géométrie variable des espaces. Donc nous, on l'a fait beaucoup à la Maison Ouverte, je le fais en ce moment, et j'ai des images d'une association que j'accompagne dans l'établissement dans la création d'un établissement pour adultes handicapés mentaux. On a à la fois le fait que si on veut que les gens soient heureux, autonomes, et je veux dire, moi je parle beaucoup de désir, on parle toujours de besoin et de répondre à des besoins, mais si on ne rencontre pas des espaces qui ne sont des lieux de désir, on n'a même pas envie de s'occuper de nos besoins, parce qu'en fait ils nous ramènent à l'angoisse de nos problématiques, la gestion du besoin, alors que si on est sur des lieux qui donnent envie et qui nous impulse une envie de faire, une envie de rencontrer et une envie de se poser, même peut-être pour ne rien faire mais de s'y sentir bien, c'est le début d'une dynamique, et on peut mettre en corrélation les dynamiques intimes, individuelles et collectives. Voilà, ça me paraît très important, et parce qu'on est dans des économies d'échelle, des économies d'argent très compliquées, je trouve que le fait de toujours jouer les géométries variables sur les espaces, de les rendre polyvalents, de créer des lieux où on est avec des coins, des recoins, de l'intimité, en même temps de pouvoir passer d'un lieu où on peut se poser et puis le lendemain de transformer la salle en brasserie et en cabaret avec les choses les plus étonnantes. Je pense qu'il faut jouer sur toutes les échelles. Moi, j'ai vu par expérience qu'au niveau de la relation entre les âges, on a autant besoin d'être seul que d'être entre soi, que d'être avec tous. Il faut pouvoir répondre à tout en même temps pour répondre bien aux choses. Voilà, ce sont des exemples. Alors, je parle aussi beaucoup d'esthétique et de... Voilà, parce que c'est important aussi.
Parmi tous les exemples, il y en a un que je découvre, en fait, c'est la Maison de la Santé, qui est-elle, sans vouloir faire un jeu de mots un peu, mais elle est en bonne santé, c'est-à-dire elle s'est bien ancrée, elle fonctionne bien.
Nous, on est intervenus très en amont, oui. Et là, ils en sont au stade de la construction.
D'accord, je pose la question parce que malheureusement, il y a d'autres exemples qui n'ont pas été pérennisés, je pense aux maisons ouvertes. Alors,
la politique des maisons de santé, c'est une politique nationale, oui. Simplement, c'est souvent, donc vraiment, ça répond à la définition de la santé de la manière manière la plus courte et non pas à celle de l'OMS, hein, qui est un bien-être social, psychique et physique. Et nous, on est parti de cette définition et on l'a calée sur la réalité du territoire à tous les âges. Voilà.
Entre parenthèses, c'est une belle illustration de ce que nous recommandait de faire Hervé Lebras, c'est-à-dire territorialiser. Voilà. Oui, allez-y, Marie-Françoise.
Oui, je voudrais dire que, par exemple, nous avons été demandés comme conseil dans une chaîne de résidences et de maisons de retraite sur leur projet. Et alors, 100% d'accord avec les... J'aime beaucoup Gisèle Bessac, qui est formidable. Non, mais par exemple, nous avons insisté, et on a beaucoup de mal, à ce que les maisons, dans la conception, parce qu'ils mettent des jolies couleurs, ils essayent de faire des choses, ils ne mettent pas le Wi-Fi dans les chambres. Alors, ça, c'est tout à fait dommage, parce que quand les gens sont handicapés et ne peuvent pas sortir de la chambre, il y a un seul ordinateur au rez-de-chaussée qui est disponible pour tout le monde, mais ils ne peuvent pas y aller si jamais au moment où ils sont dans leur lit, justement le soir, qu'ils peuvent parler à leurs petits-enfants. Il y a des choses à bouger. On a aussi indiqué qu'il fallait absolument des lumières avec des bras comme les douches. Enfin, c'est-à-dire que nous, on a besoin d'éclairage pour pouvoir lire et tout ça. C'est très important. On a besoin d'une lumière forte. Toujours les lumières sont au mur ou au plafond. Ils ne conçoivent pas qu'on a besoin de choses qui viennent sur la lecture. On a des fauteuils et des lits, mais il n'arrive jamais de la lumière au bon endroit. C'est toujours... Alors, nous essayons justement d'utiliser notre faiblesse pour essayer de faire bouger les choses et d'être des citoyens actifs pour que les choses avancent dans un sens intelligent. Mais bon, c'est des petites touches que nous faisons. Tandis que toi, tu fais vraiment...
Non, mais ça rejoint parce qu'on est vraiment dans l'idée du détail qui... Chaque détail compte. Enfin, le détail crée l'enfer ou le paradis. Hein. C'est pas les grandes idées. Enfin, je veux dire, c'est pas les grands concepts. Hein. Parce que vous avez les chartes. Hein. Enfin, moi, j'adore ça. Les chartes des valeurs, hein, le droit de la personne. Puis on rentre dans des lieux infernaux avec ces si belles chartes. Donc, pour moi, je prône le fait que les chartes doivent contenir le comment on met en œuvre les principes. Parce que si on ne fait pas le comment et on ne forme pas à partir du comment, ça ne va pas loin.
Est-ce que vous serez suffisamment patient pour... merci.
Oui.
Merci. En tout cas, mon avenir, là, s'éclaircit. Hein, si de telles maisons existent, etc., je ne redouterai d'autant moins de vivre mes vieux jours. Hein. Avant de prendre vos questions, interrogations, on va écouter peut-être la troisième intervenante. Que je remercie de sa patience. Alors, qui est-elle? Ben, c'est une géographe. Pendant que tu cherches ton PowerPoint avec quelques photos, je précise que alors, Marion est une géographe qui a passé brillamment sa thèse sur les questions d'accessibilité des personnes âgées dans l'espace public et les moyens de transport. Et justement, peut-être une première question, Marion, c'est dans quelle mesure, comment s'est imposée cette question de l'accessibilité chez les opérateurs de transport? Est-ce que c'est quelque chose de nouveau? Et ensuite, tu nous donneras quelques idées, illustrations concrètes, d'initiatives concrètes, aussi bien françaises que québécoises. Tu reviens du Québec, là où tu es allé voir ce qui se faisait, destinées à améliorer la possibilité pour tout un chacun, y compris les personnes dites âgés, j'ose plus utiliser cette formule, mais j'y mets plein de guillemets, de circuler aussi simplement que possible dans l'espace public avec les autres.
D'accord. Je vais donc déjà vous remercier pour cette invitation, Sylvain, Anne, ça me fait très plaisir. Effectivement, revenir sur cette notion d'accessibilité pour ensuite mieux comprendre les dispositifs qui ont été mis en place au Québec et en France. Alors l'accessibilité, il faut bien voir que accéder d'un lieu à un autre, ça veut surtout dire accéder à quelque chose, accéder à un bien, accéder à un service ou une activité, effectivement, et surtout, dans la plupart des cas, accéder à une relation sociale, pour dire un gros mot, accéder à un proche, une personne qu'on connaît, ou simplement se trouver, rompre l'isolement et se trouver en relation avec d'autres. Et ce dernier cas me semble particulièrement intéressant parce que c'est une ressource qu'on trouve déjà dans le déplacement et c'est quelque chose qui me semble très important de prendre en considération. C'est-à-dire que on a en France des réseaux de transport en particulier une image du métro qui montre un métro asocial, donc peut-être dire que je suis spécialiste du métro, c'est pour ça que vous allez en entendre parler assez souvent, que le transport, c'est d'abord un transport en commun, d'abord un transport collectif, et qu'on trouve cette ressource sociale dans les transports eux-mêmes. Donc là, je pense en particulier aux petites navettes qu'on trouve à Paris. Peut-être il y en a aussi à Poitiers, et notamment le Montmartre-Bus. Si vous avez l'occasion de prendre le Montmartre-Bus, c'est un tissu de relations sociales. Beaucoup de personnes se parlent, beaucoup se connaissent d'ailleurs. Dans ce cadre, dans le cadre des déplacements comme ressources, comme destination en tant que telle pour trouver la relation sociale, la question de l'indépendance, de l'autonomie, donc là je reviens à cette question-là qui a été beaucoup abordée tout à l'heure, est tout à fait importante. Parce qu'on a l'idée générale que si on garantit l'accessibilité, on va garantir l'accessibilité, ça passe par garantir l'autonomie et pouvoir se débrouiller seul. Et je me suis rendu compte, surtout à Montréal, à travers des entretiens, que des fois, c'est parce qu'on ne peut pas se débrouiller seul que du coup, on entre en relation avec les personnes. Donc en particulier, une dame qui m'a dit « Oui, je vais prendre le métro. Dans le métro, je prends ma canne. » Parce que comme ça, les gens voient que j'ai besoin d'autres. Et ça fait du bien d'avoir besoin des autres. Alors, le métro de Montréal est tout à fait plus vivable que celui de Paris, donc c'est aussi d'autres contextes, mais... J'ai souhaité poser la question de ce soir dans ce cadre.
Pardon ? C'est notre grand témoin qui se manifeste et qu'on va entendre d'ici quelques minutes. Ah, oui.
Oui, par des ingénieurs RATP, c'est vrai, en 66. Je vais en parler tout à l'heure.
Ferme la parenthèse.
Donc voilà, simplement, je vais essayer de poser des questions comme est-ce qu'il faut isoler, pas forcément isoler, est-ce qu'il faut...
Venons-en peut-être aux exemples concrets que tu as observés.
D'accord. Donc en fait, à Montréal, le transport des personnes vieillissantes, des aînés, est intégré au transport des personnes porteuses d'une déficience. Donc traditionnellement, à Montréal, on a décidé de créer un transport adapté, c'est-à-dire un transport différent des transports réguliers. Le plus ancien, c'est le transport à la demande, qui est mis en place en 1980, qui propose un service de minibus adapté, comme vous pouvez voir sur la photo, ou bien de taxis collectifs qui vont chercher les personnes à leur domicile, il faut qu'elles réservent la veille. C'est un système classique de transport à la demande. Dans ce système, les usagers de plus de 65 ans sont largement majoritaires, notamment les plus âgés d'entre eux. Pour cette raison, la Société de transport de Montréal a décidé de mettre en place des navettes OR qui desservent des quartiers résidentiels d'aînés, qui desservent aussi des centres commerciaux, des centres de santé et des centres communautaires. Ce sont des minibus qui ne sont pas accessibles aux fauteuils roulants et qui sont censés offrir un service personnalisé. Ils sont très peu utilisés. Ils existent depuis 2008 et, au dire de la STM, ce sont des lignes politiques, c'est-à-dire qui servent à la communication, quoi, tout simplement. À la marge, depuis très peu de temps, en fait, depuis la fin des années 2000, l'accessibilité des transports collectifs est pensée comme mettons en accessibilité les transports réguliers. Donc là, ce sont des choses classiques qu'on connaît en France. Les bus à plancher bas et l'installation d'ascenseurs dans les stations de métro. Donc les nouvelles lignes, comme celle qui dessert Laval au nord de l'île, sont équipées automatiquement. Pour les autres, il faut les équiper après coup. Ça peut avoir un coût qui peut être très important. On peut aller jusqu'à 58 millions de dollars pour mettre en accessibilité les stations centrales. En moyenne, c'est 3 millions de dollars. Mais enfin, c'est quand même quelque chose de conséquent. Et en outre, on a un accompagnement par des bénévoles, donc en général, uniquement par les voitures, assurées par les centres communautaires. Mais depuis peu de temps, la STM a mis en place une carte d'accompagnement. Donc c'est sa façon d'adapter les services réguliers, les services de transport collectif, à l'usage des personnes portant une déficience, donc pour l'instant uniquement visuelle et cognitive, et en leur permettant d'être accompagnées par des personnes qui ne payent pas de tickets de métro, hein, qui ont la gratuité parce qu'elles accompagnent ces personnes. Donc j'ai rencontré les personnes responsables du service accessibilité, et il se trouve qu'ils sont très... Ils regardent de l'autre côté de l'Atlantique, ils sont très demandeurs d'une chose qui existe en France. Donc je vais vous la présenter, et puis on verra ensuite si on n'a pas tout intérêt à s'inspirer, nous aussi, du cas québécois. Ce dispositif qui les a beaucoup intéressés sont les compagnons du voyage. Donc notre grand témoin pourra nous en parler peut-être plus de l'intérieur. Mais toujours est-il que le dispositif est le suivant. Il s'agit d'accompagner au sein des transports collectifs urbains pour l'Île-de-France et interurbains, des personnes qui en font la demande sans différence de catégorie, ni d'âge, ni de statut, ni quoi que ce soit, de demander à être accompagnées dans ces transports de manière régulière ou plus ponctuelle. L'avantage, c'est que la personne continue à fréquenter les mêmes espaces que les autres, donc elle a accès à cette ressource sociale, elle a accès aussi à une personne qui l'accompagne. Elle n'est pas isolée. Mais son déplacement est rendu plus sûr et plus agréable donc par la présence d'une personne à ses côtés. Et puis, ça peut être ponctuellement, il faut que je fasse un déplacement qui m'est inhabituel, donc je la prends avec vous. Et puis ensuite, je suis capable de le refaire, donc je suis capable d'avoir accès seule à cette ressource, au transport collectif. L'inconvénient, c'est le coût. C'est-à-dire que vous avez le tarif, on est à 30 euros de l'heure quand ça n'est pas majoré, quand on n'est pas en week-end. Effectivement, c'est soit on est plutôt riche, et dans ce cas-là, on a accès à un service régulier, soit sinon c'est obligatoirement ponctuel. Donc voilà, c'est ce dispositif dont je voulais parler, parce qu'il me semble tout à fait intéressant avec ce problème du coût, parce que c'est fait par des professionnels qui ont un salaire, ce n'est pas des bénévoles, c'est des personnes qui sont formées pour faire face à des comportements inhabituels, à un problème physique ou ce genre de choses. La question que je me pose, c'est est-ce que des proches de ces personnes ne seraient pas elles-mêmes capables de faire face à ça? Et est-ce que du coup, la carte d'accompagnement de la STM, si elle était développée, ne serait pas aussi quelque chose de positif, d'intéressant à développer? Donc voilà, c'est une question que j'aimerais que les gens se posent de part et d'autre de l'Atlantique, mais peut-être je vais déjà vous la poser à vous, histoire de lancer le débat.
Bah, parfait, voilà. J'ai plus rien à faire.
Donner, voilà. Coordonnées, peut-être.
Comme sur Google.
Vous n'allez pas vous en sortir comme ça, vous avez été interpellé. Donc on attend vos réactions comme celles de Gisèle et de Marie-Françoise avant d'écouter notre grand témoin. Effectivement, c'est une initiative... Oui, Anne-Marie, pardon.
Oui, moi j'ai très intéressé par toutes les récits de ces expérimentations. En ce qui concerne Hold Up, je trouvais que c'est tout à fait important, mais en Finlande, ce sont les pouvoirs publics qui ont mené. En Finlande, les pouvoirs publics ont pris comme option de réduire la fracture numérique entre les âges. Et donc, ils ont formé à tous les au numérique, particulièrement ordinateur, enfin tous les moyens de et peut-être téléphone, ça je sais pas, mais en tout cas ordinateur, les personnes âgées, pour qu'elles puissent faire appel à des services, etc., compte tenu du climat.
L'ordinateur est effectivement, à l'heure actuelle, dans beaucoup de mairies, les maisons d'association, les maisons de quartier, accessible pour un enseignement gratuit. Mais pas du tout le reste. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de formation au bord, il n'y a pas de formation qui parcourt les outils du quotidien. C'est là qu'on est original. Nous nous servons du reste de l'hôpital Bretonneau pour l'enseignement de l'ordinateur, ou du reste, il y a plusieurs autres associations qui nous ont dit, mais on peut vous faire la formation sur ordinateur. C'est ce qu'il y a de plus actuellement repris effectivement par les pouvoirs publics. Mais ils n'ont pas pensé que si nous voulions nous déplacer, si nous voulions nous servir des outils de loisirs et du GPS, etc., parce que ce n'est pas très, très compliqué, mais on s'y perd, on se bloque. Nous sommes un peu bêtes et on a besoin d'une main amie. Et avec les étudiants qui sont un peu formés, qui ont compris qu'il fallait qu'ils prennent leur temps, qu'ils nous fassent répéter plusieurs fois le geste, on arrive à un résultat. Et on est aussi encouragé en étant plusieurs de la même catégorie, c'est-à-dire que quand on va en groupe à 5 ou 6 pour le truc, pour l'heure qu'on va passer, eh bien, c'est très facilité par rapport à une offre simplement publicisée. Donc je crois qu'il y a quelque chose à faire pour amplifier l'offre à des points qui ne sont pas prévus, de même que à l'heure actuelle, les télécommandes sont de plus en plus compliquées. On a besoin d'un petit apprentissage. Il y a beaucoup de boutons, moi, je ne sais pas à quoi ils servent. Je me mêle les pinceaux, je mets le truc en panne, et je crois que c'est quelque chose d'important qu'il y ait une possibilité d'avoir un petit service individuel ou collectif, mais avec un petit nombre et de gens. Parce que aussi bien SFR que Orange ont mis des points justement exprès pour expliquer leur téléphone. Alors il y a par exemple SFR dans son centre à Paris, qui est très central près de la Madeleine, il y a 15 personnes qui peuvent venir sur rendez-vous avec 5 formateurs, donc c'est quand même pas si mal, et tous les âges. Moi, si je vais là, avec mon voisin qui a 20 ans et l'autre 45, au bout de 10 minutes, je n'existe plus, hein, j'apprends plus rien, ils sont allés beaucoup trop vite, c'est pas possible. Alors nous travaillons, on va voir, SFR nous a accordé une subvention et on est dans les gagnants. Mardi soir, on va savoir ce qu'ils vont faire, mais ils se proposent aussi, parce qu'il y a quand même un mouvement très positif, c'est qu'ils souhaitent que dans l'attribution de cette bourse qu'ils veulent nous donner pour justement développer ces choses-là, on veut aussi établir un livret un peu comme les fiches cuisine, avec des petites fiches très simples qu'on puisse tirer et qu'on fasse avec eux, mais que nous supervisions par rapport à la compréhension pour nous. Et ils veulent que leurs employés, les gens qui travaillent à SFR, beaucoup deviennent des bénévoles formateurs. Donc ils veulent nous mettre en relation et nous mettre à notre service des formateurs de chez eux gratuitement. Donc ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que c'est aussi une population plus jeune avec laquelle on va travailler, et bénévolement de leur part, ils feront un acte volontaire de citoyen, et nous aussi, parce qu'une fois qu'on aura appris, on pourra aussi rendre des services, et on pourra faire boule de neige et apprendre à nos voisins.
Bel exemple de décloisonnement, hein. Bel exemple. Une toute dernière question, notamment par rapport à l'interpellation de Marion. Jam Renaud, président du conseil
de développement
responsable.
Voilà. J'aurais plein de choses à dire.
Alors qu'une.
Je suis là pour apprendre. Point. Mais quand même, c'est un peu plus fort que moi. Par rapport à la dernière intervention, c'est vrai que nous, on est en train de réfléchir au plan de déplacement. Hein, et ça fait déjà longtemps qu'on y réfléchit et que des plans succèdent les uns aux autres. Mais là, on a peut-être une opportunité par rapport à ce que vous avez présenté, c'est la mise en place d'un bureau à haut service BHNS, à force d'appeler ça par sigle.
Un bus à haut niveau de service.
Merci. Oui,
ils suivent.
Je ne suis pas tout seul du conseil des jours. Donc, et il me semble que c'est dans des opérations comme ça qu'il faudra arriver à réfléchir, parce que c'est vrai que quand on voit le coût, c'est quand même un peu important. Et le gros problème qu'on a, c'est vrai que toutes les initiatives que vous avez présentées, c'est hyper intéressant, mais quand on est sur un territoire, notre problème à nous, c'est comment on peut généraliser ça. C'est-à-dire que ça ne soit pas l'apanage de petits groupes, mais ça, là-dessus, je pense que vous n'êtes pas en désaccord. Mais comment on peut arriver à présenter, informer ? Parce que moi, ce qui me surprend depuis le début de la soirée, c'est le nombre d'informations qui sont amenées ici et qui n'accèdent absolument jamais aux décideurs, hein, y compris celle du premier intervenant, qui est quand même quelqu'un de l'école des hautes études. Moi, ça me pose quand même des problèmes sur notre organisation sociale.
Tout à fait.
Comment des gens peuvent penser de telles choses, avoir de tels éléments précis ? Madame, vous en êtes aussi un exemple vivant. Tout ce que vous avez dit, moi, j'ai l'impression de défendre des choses comme ça depuis une vingtaine d'années. Comment ça se fait que ça n'avance pas ? Sur les négociations sur les retraites, rien n'a bougé. Enfin bon, Passons. Mais il me semble qu'il y a, des, il y a plein de petites choses là qui sont intéressantes et importantes. Et
j'imagine que tu as été intéressé aussi par la maison de la santé telle qu'elle a été configurée par Gisèle. Hein, voilà.
Oui, mais très bien. Pourrais, je vous dis, je pourrais tout reprendre.
Bon, c'est trop passionnant. Ah, alors, voilà, dernière remarque.
Voilà ce monsieur qui était là, qui ne disait rien depuis le début de la soirée.
Il dit ça. Voilà.
Bonsoir à tous. Donc moi, je m'appelle Olivier Bibot. Je travaille dans un centre pour enfants polyhandicapés. Donc forcément, là, le côté accessibilité, c'est un grand, enfin, quelque chose qui m'intéresse énormément. Et je voulais juste faire le lien et le parallèle justement entre malheureusement les personnes âgées et le handicap, puisque on se retrouve dans des situations de vie qui finalement se rapprochent de plus en plus avec des problématiques qui sont très très proches. La problématique de l'accessibilité, enfin, c'est une problématique qui est vraiment très proche dans ces deux univers-là. Et du coup, la définition de la personne handicapée a énormément changé et elle est de plus en plus en rapport à son environnement. Donc une personne est handicapée parce que l'environnement est handicapant. Et effectivement, quand on voit des initiatives comme ça, enfin, des choses comme ça, c'est vraiment, et avec ce que vous disiez aussi, une pensée de l'environnement avant même, enfin au niveau de la conception même de l'urbanisme, des bâtiments, etc., qui va faire qu'on sera moins handicapé et que chacun pourra trouver sa place finalement dans la société.
Je vais illustrer quelque chose. Quand on a étudié la maison de santé, c'est en Auvergne, dans la communauté de communes de Pionça, il y avait une particularité quand on a été en immersion 3 semaines. Et une des richesses du territoire, c'est un centre de rééducation fonctionnelle qui est très renommé sur toute la région. Et certaines de ces personnes qui fréquentent ce centre restent et deviennent habitants de la communauté de communes à la fin de leur séjour, qui peut être des fois très long. Eh bien, aucun des bâtiments publics et privés de Pionça n'est accessible aux handicapés. Voilà.
La communication, c'est pas facile à notre époque, mais on a quand même, grâce au ciel, Internet qui est gratuit. Hein. Alors on essaye, on a des sites, on essaye de se multiplier et puis on essaye de faire ce qu'on peut pour faire savoir. Alors dans le cadre de la publicité, on s'est réunis et il y a un de nous qui a suggéré qu'on amplifie le courrier des lecteurs qui est gratuit, c'est-à-dire d'envoyer dans les magazines, quand on a la moindre occasion, un courrier des lecteurs en signalant des choses. Alors on n'a pas réussi encore à nous bouger vraiment pour arriver à écrire des courriers réguliers, mais après tout, c'est vrai qu'on n'utilise pas les moyens qui nous sont donnés. Le courrier des lecteurs, tout le monde peut l'utiliser. Regardez sur Internet les sites qui vous... Enfin bon, il y a quelque chose qui circule à l'heure actuelle aussi gratuitement. Il n'y a pas que les choses payantes.
Toute dernière intervention de notre amie hyperactive.
Hein. Oui, très court, parce que je traverse beaucoup de choses, je ne peux pas tout vous dire. Mais ici, à Poitiers, il y a quand même... on a mis en place de façon associative un centre social Bien Vivre à Poitiers. Et ce sont des duos, enfin des bénévoles qui accompagnent des personnes âgées, qui vont leur rendre visite et qui, s'ils ont envie de sortir, peuvent les accompagner. Donc c'est un peu l'embryon déjà de ce que vous faites. Et il y a aussi un projet de maison de santé aussi sur le quartier des Trois Cités. Et puis c'est vrai que personnellement, sur la formation, on peut aussi progresser. Il y a 3 ans, je suis allée passer mon diplôme d'ingénieur social à Lyon, avec tout le monde, et je l'ai obtenu.
Bravo. Merci beaucoup. Je me méfie quand on dit petite remarque. Hein,
je voudrais rebondir sur ce qu'a dit madame tout à l'heure. Oui, les transitions, on est dans la transition. Et il ne faudrait pas que ce soit les transitions qui tournent sur une seule série de personnes. C'est-à-dire qu'il faudrait arriver à faire en sorte qu'il y ait un métissage là-dedans et que ce métissage se poursuive. Que ce soit un métissage social, un métissage de tout type, hein, de toute origine, mais un métissage. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut approfondir, me semble-t-il. Pardonnez-moi.
Non, vous avez bien fait.
Est-ce que j'ai le droit d'ajouter une petite chose ?
C'est pas une question de droit, c'est que on a un grand témoin et j'aimerais qu'on l'entende. Mais vas-y, Gisèle, si tu es raisonnable.
En résonance avec métissage, apprentissage. Voilà, je trouve qu'il y a... Il a été évoqué tout à l'heure quelque chose, c'est-à-dire que la relation des uns avec les autres n'est plus la transmission comme dans les sociétés traditionnelles où les plus âgés transmettaient aux anciens, parce qu'il y a, il y a l'accélération du temps qui fait qu'il y a la nouveauté tout le temps et qu'il y a un ferment, merci, très fort, c'est la créativité et l'apprentissage en commun. C'est-à-dire qu'on est vraiment... Enfin, moi, j'ai vu dans les différents dispositifs sur lesquels je travaille, la notion de transmission réciproque et de créer ensemble, voilà, qui est quand même très, un élément très fort.
Ce qui est intéressant, c'est que les plus jeunes qui interviennent là-dedans vont pouvoir transiter et faire quelque chose d'autre pour se lancer dans d'autres métiers. Parce qu'il y a des métiers à découvrir encore.
Plus je vous écoute, là, plus j'ai un regret, c'est de n'avoir pas eu plus de monde. Hein. Je compte donc sur vous. Je vous remercie d'abord. Je remercie celles et ceux qui ont fait l'effort de venir et de rester jusqu'au bout. Je compte sur vous pour relayer des colibris. Voilà. Relayer ce que vous avez entendu à travers les interventions. Je le dis en désordre. Internet, voilà. Ça sera sur le site. Mais je pense que ça aura plus de poids si vous le relayez par vos propres mots. En tout cas, merci beaucoup à Anne-Marie et à tous autres intervenants. Ça a été extrêmement riche. J'ai noté aussi, ne pas oublier, parce que quand tout va bien, c'est la seule personne qu'on oublie de citer. J'ai noté, pensez à remercier le régisseur, parce que tout a bien fonctionné. On peut le remercier.
Merci,
que dire d'autre ? Eh bien, merci encore aussi à toutes les trois. Je vais vous le demander. Edith, d'où veux-tu parler ? D'ici.
Je vais te donner un micro, Edith.
Pendant qu'on te... Alors, laisse-moi te présenter, dire tout le plaisir que j'ai t'accompagner dans différents projets. Nous nous connaissons depuis une douzaine d'années. Que dire ? Tu es prospectiviste, tu es directrice du Centre culturel international de Cerisy. Cerisy, c'est dans la Manche. Ça ressemble à quoi ? Ça ressemble à ce magnifique château du XVIIe siècle qui figure en couverture de ce livre, qui n'est autre que les actes du magnifique colloque. Je ne devrais pas dire ça, j'ai eu ma modeste contribution à ce colloque, mais qui revenait sur 100 ans d'histoire. Cerisy, c'est 100 ans d'histoire, surtout si on remonte aux origines, c'est-à-dire aux décades de Pontigny. Pontigny, là, c'est plus dans la Manche, hein, c'est dans Lyon, à Auxerre, et près d'Auxerre. J'habite à Auxerre, d'où le lapsus. Et c'est des décades qui ont été inventées par un certain Paul Desjardins. Paul Desjardins n'est autre que le grand-père d'Edith Ergon. Donc avec Edith Ergon, on a un témoignage vivant d'une notion centrale qu'on a peu évoquée. Voilà, la transmission. D'une certaine façon, Edith est dans la transmission, mais aussi l'innovation, parce que les colloques qu'elle organise à Cerisy sont encore autre chose par rapport aux décades, pour différentes raisons, c'est pas trop notre sujet. Trêve de présentation, Edith. Merci d'avoir accepté de faire ce très difficile travail d'écoute pour une restitution, en autant de temps que tu veux. Oui.
Dans 5 minutes, tu vas me faire des signes. Et puis, je ne sais pas s'il va être content. Ça s'appelle théoriquement, il m'avait donné un titre qui était « Des villes pour tous les âges ». Et j'ai proposé finalement de le traiter, mais de le traiter en étant en même temps à l'écoute et en écho avec ce que j'ai pu entendre aujourd'hui. Donc d'abord, ce sera un regard de prospectiviste et de prospectiviste du présent, c'est-à-dire que ce qui m'importe, c'est d'essayer de poser les bonnes questions avant d'y apporter des solutions. Donc, et que, si possible, la façon dont on pose ces questions sont en mesure d'alimenter les politiques publiques, ça ne serait pas plus mal. Mais c'est en général comme ça qu'on essaye de travailler. Alors j'ai pris un parti pris pour faire cette restitution, c'est de faire un petit jeu, de faire une lecture abécédaire de ce que j'ai entendu et aussi de ce que je n'ai pas entendu. Donc comme ça, je pourrais traiter du sujet qui devait être le mien. Alors, les termes que j'avais retenus au départ, certains ont été abondamment travaillés, d'autres pas. Mais quand ils ne l'ont pas été et que je tiens à eux, je les commenterai dans un deuxième temps. Le premier terme, il vient d'être prononcé. Il est pour moi l'essentiel et on y reviendra, c'est l'accélération.
Le deuxième terme, il n'a pas été beaucoup prononcé, mais Marion vient de le faire, c'était l'accessibilité. Et que je pourrais mettre, puisque ça va alphabétiquement, avec l'accompagnement. Le troisième terme, c'était adolescence. Puis j'en ai rajouté de temps en temps, d'ailleurs, avec, bien sûr, en vous écoutant, alors j'ai rajouté adulte. Et puis il y avait âge de la vie, allongement de la vie. J'ai rajouté démocratie. Il y avait emploi, famille, fragilité, inégalité, on n'en a pas parlé des masses. Hein. Habiter les territoires, ça, Hervé, le bras. Individu, individuation, intergénérationnel, jeune, lieux et liens, mobilité, politique publique, vieillissement, ville pour tous les âges. L'adolescence, ça c'est pour Guillaume. Donc l'adolescence, un âge de passage. On a parlé de transition, nous on parle de passage. On parle même d'un âge passage. On avait d'ailleurs, je crois que Anne-Marie Guillemard était là dans, en 2000, on avait fait avec Jean-Paul Bailly une biennale au Conseil économique et social sur les âges de la vie. Et c'est là où on avait introduit cette idée de âge de passage, âge de brassage. Et je trouve que sur ce que nous a dit Guillaume tout à l'heure sur l'adolescence et l'adolescence, on a bien vu cette tension entre l'autonomie et la dépendance et entre la prospective du présent aime beaucoup les tensions, vous allez voir. Hein, et elle essaye de les dépasser, sachant qu'a priori, elles ne le sont pas. Mais dans le temps, elles le sont, justement. Et donc, entre autonomie et indépendance, c'est entre individuation et collectif. C'est-à-dire, c'est en créant un nous que je crée un je. Et c'est ce que nous a montré le travail qu'on a conduit pendant 3 ans sur les adolescents du Val-de-Marne, puisqu'on nous avait dit, on vous donne 3 ans pour comprendre ce qu'il y a dans leur tête. Je ne sais pas si on a compris, mais Guillaume a fait un beau livre que vous avez là et qui s'appelle « Et si l'adolescence est une chance pour la ville ?» L'adolescence, la jeunesse... L'allongement de la jeunesse, nous en avons parlé beaucoup, et effectivement de bien marquer que ça tenait à la déconnexion des différents âges, des différents seuils qui marquaient les âges, et que en plus aujourd'hui ces seuils étaient réversibles. Moi j'avais effectivement une thésarde à la RATP qui a fait une thèse sur la jeunesse et dont on a montré, j'ai un peu oublié, que c'était un construit social et politique. Alors, adolescence, maturescence, sénescence, ce qui est important là-dedans, c'est qu'il n'y a pas de plateau, il n'y a pas de stabilité, et qu'on va considérer enfin les âges comme des processus et pas comme des états. Sur les âges de la vie, alors là, il y en a beaucoup. Hein. J'ai appris des tas de choses, moi, en écoutant Hervé Lebras. Hein. Cela dit, je suis très inquiète parce que je suis dans ma 70e année et j'ai appris que c'était un âge dangereux.
71.
Alors, ça va. Et donc, j'ai appris les nombres, comment il appelait ? Climactérique. Hein ? Donc, cet âge, j'ai appris qu'en fait... Finalement, le passage des 3 âges, mais vous nous l'avez très bien montré, correspond à un modèle industriel, mais que ça a été une époque et qu'avant, il y en avait beaucoup plus des âges. Donc, nous ne sommes pas exceptionnels, nous ne sommes pas passés de 3 à 7, mais nous étions 7 et même bien au-delà. Nous avons été réduits et puis nous nous reprenons de l'autonomie pour inventer autant d'âges qu'on veut. Hein, et ces âges ont une inégale durée. J'ai bien aimé ce qui a été dit sur la retraite et le rôle important de la retraite, parce que je crois toujours, moi j'ai un doctorat de maths à l'origine, ça se sent pas à l'arrivée, hein. et je crois que je suis sortie de la RATP, on me disait prospectiviste urbaine, etc.
Mais bon, les statistiques, ça ne me passionne pas. Mais tout ce qu'on essaye de mettre en termes de vécu, d'analyse qualitative, etc., je crois que ce qui a été dit sur la retraite par rapport à ce que notre philosophe a pu nous dire sur le progrès, etc., mais de chercher une promesse d'une vie à soi correspond tout à fait. Et c'est pour ça que moi, j'avais essayé, avec Guillaume, de travailler en parallèle sur les adolescents, et sur ce qu'on ne sait pas appeler, parce que si vous dites les sénescents, les gens deviennent absolument liquéfiés. On peut parler d'adolescents, mais on ne peut pas parler de sénescents. D'ailleurs, nous ne savons pas parler des personnes dont nous parlons. Hein, parce que personnes âgées, ça veut déjà dire qu'ils sont en situation de déprise. Hein. Marion a fait tout un travail de bibliographie là-dessus, où on a montré que... Alors, on appelle ça les seniors, mais de la même façon que vous nous avez dit qu'on construisait les politiques publiques, que les âges étaient des constructions des politiques publiques, le mot senior est une construction des politiques commerciales. Donc, on ne sait pas appeler les personnes qui prennent leur retraite et qui sont encore en bonne forme pendant 10, 15 ou 20 ans. Et donc, très bien, moi j'adore Hold Up parce que c'est debout les vieux. Hein, c'est quand même tout à fait... Alors, on a dit des choses sur l'âge qui n'est plus un marqueur qui pourra harmoniser les différentes fonctions sociales. On a dit qu'il y avait une fin des rites de passage. Je ne crois pas du tout. Je crois que ce ne sont pas les mêmes. Qu'on est dans une, on sait plus, on ne vit plus autant de l'Angélus, hein, mais on se fait des tas d'organisations pour se resynchroniser, parce qu'on est désynchronisé. C'est les anniversaires, c'est les commémorations, c'est les grandes fêtes. Regardez l'ampleur des événements. Hein, on y travaillait dans d'autres domaines. Il n'y a personne dans les musées, mais quand vous faites un événement, il y a un monde absolument extraordinaire. Donc on a de nouveaux rythmes, mais ces rythmes désynchronisent les éléments, les rites traditionnels, et en introduire d'autres. Hein. Donc je crois que là aussi, on est sur des rites, et on voit bien que où la vie privée est plus importante peut-être que la vie publique. Et on évoquait l'extraordinaire rôle des anniversaires et des commémorations. Hein, nous sommes dans un monde de la commémoration, ce qui est quand même un petit peu problématique. Alors, bon, moi, je trouve tout à fait... On a peu parlé d'un certain nombre de choses, comme, sauf tout à l'heure, Madame Guinemard, la société de la connaissance, bah oui, c'est ça qui fait qu'on est passé d'un modèle à trois temps à un modèle processuel. On ne peut plus dire combien il y en a, d'ailleurs, des temps. Hein. On est sans arrêt, on est effectivement sur des cours de vie flexibles, sur des processus de décomposition, recomposition, désinstitutionnalisation, restantalisation, etc., avec des allers-retours incessants, des temps qui s'enchevêtrent. Et j'ai bien aimé votre formule de la retraite solitaire à la retraite solidaire. J'étais hier à la prospective Agir avec Ensemble de la Fonda sur le devenir des associations et le nombre de personnes en bonne forme, mais retraitées, qui heureusement font vivre ces mouvements sociaux, mais ils sont très inquiets parce qu'ils trouvent que les liens sociaux sont aujourd'hui faibles, éphémères, etc., et beaucoup moins forts, et ils s'interrogent sur le bénévolat et sur l'avenir de ces associations qui se sentent, pour les plus grosses, complètement instrumentalisées. J'ai rajouté adultes parce qu'il a beaucoup parlé, monsieur de Chavannes, de la crise de l'âge adulte. J'ai découvert un peu ça, moi, la crise de l'âge adulte. Moi, tout mon travail, depuis que je travaille sur ces périodes-là, c'était de penser aux non-adultes, c'est-à-dire de l'enfant à l'adolescent, aux gens, etc., pensant que les adultes, effectivement, ils sont dans une crise parce qu'ils travaillent dans un cadre tel qu'ils ne pensent qu'à ça, surtout les hommes, mais les femmes de plus en plus aussi. Donc, et que toute la vie est quand même fondée, et commercialement, autour des actifs, et d'un modèle de l'âge adulte qu'il faut effectivement déconstruire. Est-ce que c'est une crise pour autant? C'est-à-dire que tout était, les âges de passage, ils devaient être rétrécis et aller très vite pour permettre d'arriver vite à l'âge adulte et d'y rester le plus de temps. Donc c'est toute l'idée d'un état stable et qui est...
Alors, la question de l'allongement de la vie. Alors, on nous a dit que c'était lié à la démocratisation de l'accès au grand âge. On nous a dit aussi que ça pouvait être lié, ça a été discuté, hein, à la sacralisation de l'enfant et au fait que depuis qu'on s'intéresse aux enfants, ben, on a fait baisser la mortalité infantile. Moi, je considère que c'est une des choses... le président a dit tout à l'heure qu'il faisait des exposés sur la longévité. Je trouve que l'allongement de la vie en bonne santé, c'est d'abord une excellente nouvelle. Et c'est une nouvelle que notre société n'a pas du tout encore intégrée dans l'ampleur de la transformation que ça pouvait. Et effectivement, heureusement qu'il y a des bénévoles ou des politiques ou des gens qui peuvent s'impliquer dans des activités citoyennes ou solidaires, d'autant que l'État se désengage de manière systématique, heureusement, mais ils ne sont pas du tout reconnus comme tels. Et je pense que là, tout le problème des retraites, enfin la façon dont on pense que le vieillissement partout, c'est un coût et un risque de dépendance, alors que c'est d'abord une fantastique richesse. Alors, permettez-moi là de faire une ouverture qui ne rentre pas dans mon abécédaire, et de rentrer, Sylvain le connaît bien, sur la question majeure de la prospective du présent. La prospective du présent, comme elle pose des questions, elle en pose de deux formes. Elle dit « et si ?» et « jusqu'où ne pas ?» Et de « et si ?», je voudrais juste vous en livrer deux. Et parce que nous avons travaillé sur ces deux, et que je viens de les dire. Et si l'adolescence, plutôt que d'être vue comme un âge à risque, était appréhendée comme une ressource dans une société en mouvement ? C'est ça qui a donné lieu au livre de Guillaume. Et puis, et si le vieillissement, plutôt que d'être considéré comme une charge, était vu comme une bonne nouvelle, allongement de la vie en bonne santé, dont la société n'a pas encore pris la mesure. Habiter les territoires. Alors là, c'est Hervé Lebras. Moi, je connaissais bien ses travaux. Je les connaissais surtout en Bretagne, parce qu'il avait... accompagné et fait un petit bouquin sur les Côtes d'Armor, enfin la Bretagne, comment on habite la Bretagne. Il y a une géographie des âges qui s'est installée, corrélée avec la géographie des fonctions sociales. Je crois que c'est très important. Très important notamment dans une perspective d'urbanisation et de périurbanisation galopante. Et... on a vu que c'est un problème qu'on rencontre toujours quand on travaille avec les territoires. Je pense que ça doit être vrai en Poitou-Charentes aussi, sauf que vous avez une ville universitaire. Mais les jeunes quittent les campagnes, et on vient d'apprendre et vont dans les villes, c'est un des gros problèmes de toutes les territoires, les départements dits ruraux. Moi, j'ai travaillé dans tous les strates, de, par exemple, de Basse-Normandie, mais autres, en disant « il faut maintenir nos jeunes ». Je dis « non, on ne peut pas maintenir vos jeunes ». La mobilité est aujourd'hui un mode de vie. Mais ils reviennent d'ailleurs quand ils peuvent, etc. Donc je trouve que toute cette analyse sur laquelle je ne reviendrai pas, mais qui était très fine, les enfants de 5 à 14 ans, ils sont en périurbain. À mon avis, les enfants, ils ne peuvent pas être très loin de leurs parents de 5 à 14 ans. Donc ce qui est clair, c'est que ce sont les familles nombreuses qui, compte tenu du prix du foncier, faut aussi dire les choses, ne peuvent plus habiter en centre-ville et vont habiter en périphérie. Cela dit, en général, en tout cas en Île-de-France, ils se ruinent parce qu'ils payent des transports de manière tout à fait importante. Ce qui fait que c'est une solution extrêmement mauvaise. Mais en revanche, et ça, il le montrait bien dans la Bretagne, le fait que les agriculteurs et les ouvriers se retrouvent dans les terres, à la campagne, les seniors plutôt en bon état et fortunés sur le littoral. Bon, c'est intéressant de voir. Et ça, vraiment, moi, je travaille beaucoup avec les collectivités territoriales, mais on n'arrive pas à faire prendre en compte ça. Et pourquoi on n'arrive pas en compte, j'anticipe sur les politiques publiques, c'est que les politiques publiques, elles sont définies comme des rondelles de saucisson ou comme des tuyaux d'orgue. C'est-à-dire que quand vous travaillez sur le vieillissement, vous travaillez avec le social. Si vous travaillez sur le vieillissement avec les départements, vous travaillez sur la gérontologie. Si vous travaillez sur le vieillissement avec les régions, vous travaillez sur l'économie. Et si vous leur dites, comme à chaque fois je pose la question, est-ce que dans votre SCOT, vous avez introduit la problématique du vieillissement ?
On me dit, ah bon, pourquoi? Donc, je crois que ça, c'est très important. Ensuite, un des points qui a été tout à fait important, et débat entre Éric Deschavannes et Guillaume Machère, c'est la question de l'individu et de l'individu relationnel. Donc, la métamorphose du lien social, nous a-t-on dit, de hiérarchique à électif ou affinitaire. Et puis, cette ambivalence d'autonomie et d'indépendance. Et moi, je lisais dans le train, là, le petit refaire la société... Et le Robert Castel, qui nous dit bien quand même que tout ce que nous a dit Éric Deschavannes, l'individualisme est effectivement la meilleure et la pire des choses, mais que c'était toujours lié à une politique d'État-providence ou à une politique pour pouvoir s'individualiser. Il faut avoir les ressources et les droits qui vous permettent de le faire. Or, aujourd'hui, on travaille avec Sylvain sur les agriculteurs en difficulté ou pas en difficulté, et là je me suis prise à me faire mon autocritique en disant faut aider, c'est ce que nous disions il y a quelques jours, les agriculteurs qui s'en sortent à se développer, mais il faut aussi aider les agriculteurs qui s'en sortent pas parce qu'ils n'ont pas les ressources pour s'en sortir, et je trouve que ceci est assez éclairant. Il ne remet pas en cause l'avancée de l'individualisme, mais le fait qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de perdants. Et ce discours sur est un peu... Alors, il y a quelque chose qui m'a manqué, mais qui était les perdants. Hein. Ben, les perdants, il y en a. Et il y a des fragilités, des inégalités. On n'en a pas beaucoup parlé. Elles sont permanentes ou temporaires. On correspond à des ruptures de vie. On a parlé de transition. On a été très pudiquins. Et puis, il y a des nouveaux exclus dont on a parlé de manière géographique. Les personnes qui ne sont pas rentrées dans la mobilité, les pauvres qui sont confrontés à des difficultés économiques, quand même 13% de la population vit sous le seuil de pauvreté, les jeunes qui vivent à la campagne, les personnes âgées isolées en ville ou dans le rural, les immigrés. Et puis, bon, il y a un changement complet de la géographie de la pauvreté et de la vulnérabilité. Moi, c'est un domaine sur lequel je travaille avec La Poste, et par rapport à ça, c'est peut-être privilégier des qualités, des comportements, des choix de robustesse, de résistance, de résilience. Alors, l'intergénérationnel, pour moi, c'est une des questions prospectives absolument clés. Donc, ça a été beaucoup analysé par Claudine Athias-Donfus, par Gisèle, qui est revenue aussi. Bon, 4 voire 5 générations, les générations se chevauchent. On a vu l'importance, Marie-Françoise Fuchs, de la grand-parentalité. On est grand-parent pendant la moitié de sa vie. La question de la génération pivot, les solidarités grâce à la génération pivot. Moi, je me demande si ce rôle des générations pivot, il ne peut pas être un peu distribué. On a vu qu'il était avec l'État, mais bon, si l'État laisse tomber, peut-être il faut trouver d'autres formes d'organisation. Heureusement, on a vu quand même des complicités entre les plus jeunes et les plus âgés, les étudiants et les... etc. Moi, j'avais travaillé sur des crèches dans les maisons de retraite, mais ça, c'est pas une vraie solidarité, peut-être. Mais je crois que cette question des générations, et j'y reviendrai tout à l'heure, sur l'accélération est quelque chose d'important. Ensuite, on a parlé des jeunes. Alors là, on a dit beaucoup de choses sur les jeunes qui vivaient en centre-ville, qui avaient des revenus décroissants, un taux de pauvreté important, et en même temps qu'il y avait une obligation à rester jeune qui était marquée vis-à-vis des moins jeunes. Et on a dit, et ça je crois que c'est très très intéressant, que de ce point de vue-là, la jeunesse, c'est pas un âge, on avait dit que c'était une construction, c'est un potentiel, c'est une ambition, c'est une perspective, c'est une qualité, c'est une ressource. D'ailleurs, ça veut dire qu'on est jeune à tous les âges, hein, parce que c'est une capacité d'action, c'est une capacité à faire, etc. Un élément qui vous étonne peut-être, c'est les liens et les lieux. Ben, c'était un colloque de Cerisy, et puis c'est un colloque où on s'est rencontrés, et vous avez vu à quel point les lieux, que nous a montré Gisèle notamment, mais d'autres aussi, c'est important. La qualité du lieu, dès que pour les fragilités ou quand on n'est pas fragile, c'est vraiment quelque chose d'important. Moi, je m'en aperçois tous les jours à Cerisy. On ne pense pas de la même façon dans un lieu ou dans un autre. La manière dont les échanges informels peuvent se tisser, la manière dont on gère les temps, sont des choses tout à fait importantes. Et je crois que c'est important dans une société du numérique où, finalement, la vie privée prend beaucoup, beaucoup plus d'importance par rapport à la vie publique. Et je citerai ces mots de Viard, Jean Viard. On est dans une société de bonheur privé, de crise publique et de peur planétaire. Alors ça, les peurs planétaires, ce soir, on n'en a pas vraiment parlé. Hein. Mais bon. Voilà, bah alors c'est, voilà, tout est... Alors, sur les politiques publiques, Anne-Marie Guimard a tout dit. Effectivement, on est bien d'accord. On le disait déjà dans ce colloque il y a 10 ans ou 11 ans au Conseil économique et social. Laissons tomber les politiques par âge. Et essayons, moi je suis complètement d'accord avec ce qu'elle a dit d'une catégorie de parcours de vie. Et ce qu'on avait d'ailleurs essayé de faire avec Guillaume s'agissant de nos fameux ados, c'est de les prendre à des parcours, c'est-à-dire il y avait quand on entre en cinquième, ou quand on entre en sixième, cinquième, et puis ensuite quand on entre en troisième, c'est-à-dire on sait bien que les comportements changent quand on a une rupture de vie. Alors cette rupture peut être positive ou négative, mais c'est sûr qu'en prospective du présent, on travaille toujours sur les situations et les ruptures de vie. Donc c'est trouver des politiques publiques adaptées à des processus plus qu'à des États, ça c'est un vrai challenge. Et toujours la question des politiques publiques, c'est elles sont bonnes à un moment donné, et puis le monde bouge tellement vite qu'elles sont décalées à un autre moment et qu'on passe son temps à essayer de voir quels sont les écarts entre les politiques ou les offres, etc., et les aspirations de la société. L'autre jour, nous étions donc à Nevers avec Sylvain, et les chambres d'agriculture nous disaient, par rapport à nos agriculteurs, nous, on sait prendre en compte les tendances lourdes. Mais les signaux faibles, on ne sait pas. Ben oui, ben c'est quand même embêtant. Hein, mais une chambre d'agriculture, ce n'est peut-être pas faite pour prendre un signal faible. Alors, le vieillissement... Je vais l'aborder en vous racontant une petite histoire personnelle. D'abord, j'ai été très frappée, mais ça c'est peut-être mon passé RATPien, qu'on n'ait pas parlé de mobilité. De mobilité. Parce que pour moi, la mobilité, c'est pas le transport, c'est pas le déplacement, mais c'est une capacité à changer de place, à changer dans sa tête, à changer de système de valeurs, etc. Et la mobilité, elle en a parlé. C'est un facteur clé de l'autonomie et de l'intégration sociale. Et je pense qu'on a vu aussi, selon les âges, on vit pas le temps de la même façon, mais on vit pas l'espace de la même façon. Et toutes ces politiques pour les personnes âgées, sur le maintien au domicile, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, sont des politiques qu'il faut interroger en se demandant s'il ne vaut pas mieux avoir des quartiers où on puisse se promener, aller chercher son pain, plutôt qu'on vous apporte tout à domicile et que vous soyez complètement... Et il y a des dimensions sensibles à prendre en compte dans la mobilité. Là-dessus, on a travaillé avec Marion, et nous avons conduit un programme qui s'appelait « Plus longue la vie » avec la FING. Vous connaissez la FING, la Fondation Internet Nouvelle Génération, pour essayer de travailler ensemble sur vieillissement, mobilité, nouvelles technologies. Nous avons répondu à un programme national, le Prédit, et nous avons répondu à la fois dans le Mortainais, qui est un département rural de la Manche, et dans le Grand Lyon. Et nous avons donc travaillé à la fois sur le vieillissement, sur les mobilités et sur les territoires. Nous avons eu dans le Mortainais une démarche assez remarquable, dont je suis contente, et qui a donné lieu à ceci, enfin qui sont des propositions. Alors, on a pris le temps, avec les élus, avec les gens, les acteurs professionnels, de faire des groupes de diagnostic, d'aller interroger beaucoup de personnes en situation, d'en faire la synthèse, de développer des analyses, puis de faire travailler des designers pour élaborer des projets. Nous sommes arrivés à deux projets, il faut circuler ça, dont l'un, c'est la centrale des mobilités, c'est-à-dire plutôt que de faire en rural des gros bus qui sont vides, essayer de mettre tout ce qui existe en lien des systèmes de covoiturage, etc. Mais surtout, progressivement, de prendre les personnes par la main et de leur montrer que c'est possible de le faire. Et puis, une autre chose qui s'appelle la chaîne des jardins. Et la chaîne des jardins, c'est pour permettre à des personnes âgées qui ont du mal à faire leur jardin, qui risquent de l'abandonner et qui n'osent pas demander de l'aide. Et il y aurait des jeunes qui viendraient, ou des moins jeunes, leur donner un coup de main contre quelques bottes de poireaux peut-être, ou de carottes. Mais ils n'osent pas. Et donc on a organisé cette idée de chaîne des jardins par des fêtes, par des lieux où ils vont se rencontrer, où ils ne vont pas être en situation de demande, mais où cette rencontre fera que des liens vont s'établir. Et donc vous voyez la nécessité du détour. Et je terminerai, parce que je vois que Sylvain me fait les gros yeux, sur deux choses. J'ai un dada pour le moment, mais je suis quand même étonnée qu'on n'en ait pas beaucoup évoqué. Enfin, un livre qui m'a beaucoup marqué et une réflexion qui me semble importante, c'est un livre du sociologue allemand Hartmut Rosa sur accélération. Je veux dire, le fait que nous sommes dans un système d'accélération lié à la modernité, etc., qui va de pair entre trois types d'accélération. Une accélération technique, on l'a connue il y a un siècle avec le transport, on le connaît aujourd'hui avec le numérique, qui fait une compression de l'espace. Et puis on pourrait se dire, avec cette accélération technique, ben on pourra avoir une décélération des rythmes de vie. Eh bien non, parce que cette accélération technique, elle nous met dans une volonté d'hyper-choix et de consommation tous azimuts, parce qu'on ne veut rien manquer. Et donc, à cette accélération technique s'associe une accélération du rythme de vie. Et puis, il y a une troisième type d'accélération qu'il appelle l'accélération du changement social, l'accélération des transformations socio-culturelles. C'est-à-dire, notre système social, on l'a vu, je crois, ce soir, va beaucoup plus vite. Et donc, ce qui était stable, il y a encore un siècle, entre trois générations, est aujourd'hui complètement transformé à l'intérieur. Intergénérationnel qu'on a posé, etc., est absolument crucial. Et que les gens, ils aiment bien être en famille ensemble, hein, mais simplement, ils ne veulent pas faire la même chose. Donc, ça veut dire qu'il faut trouver des lieux où on fait des choses différentes ensemble. On aime bien la famille, mais on est tellement différents. Vous avez des enfants qui ont 10 ou 15 ans de différence, ou 10 ans, vous verrez que ce n'est pas du tout la même environnement dans lequel ils fonctionnent. Et donc, ça crée trois choses. Ça crée des menaces sur la santé psychique des individus, c'est du stress. Ça crée des menaces sur la solidarité des générations, je viens de dire. Et ça crée des menaces sur la démocratie, parce que la démocratie, ça prend du temps. Et ce n'est pas dans un lieu comme celui-ci ou avec des élus que va le dire. Alors, on peut chercher des formes de décélération. Il y en a, hein. Il y a les limites naturelles de la vitesse physique, biologique. Il y a la retraite, les pauses, des îlots de décélération. Il y a des ralentissements qui sont des contre-coups fonctionnels, par exemple les embouteillages. Il y a les critiques radicales de la modernité. On a connu Pierre Sansot avec l'apologie de la lenteur, où il y a l'idéologie de la décroissance. Et puis il y aurait peut-être, mais ça il faudrait les construire, des stratégies de changement avec des ralentissements nécessaires qui permettraient d'accélérer d'autres processus, etc. Il y a un mot qui a été prononcé que dernièrement, là, c'est association. Et je crois que c'est important, un de nos agriculteurs disait aussi l'enjeu c'est de s'associer. Moi je trouve qu'on n'a pas beaucoup parlé de collectif, je trouve qu'on n'a pas beaucoup parlé de « en commun ». Aujourd'hui, on parle beaucoup de comment définir ensemble le « en commun » plutôt que de prétendre à un intérêt général qui nous serait donné d'en haut. Je pense qu'aujourd'hui, on est à la fois des sujets qui veulent avoir une certaine autonomie. On a une conscience de mondialité, parce que la planète est quand même en péril. Et on a, entre tout ça, ce que j'appelle, moi, des « co ». C'est-à-dire des émulations coopératives, des solidarités territoriales à toutes les échelles qui fait que les choses peuvent tenir ensemble. Alors, mon propos, c'était à l'origine vivre ensemble, des villes pour vivre ensemble à tous les âges. C'est vraiment cette idée d'ensemble qui me semble importante. Alors, ça veut dire, et moi j'ai travaillé un peu avec des urbanistes, ou etc., vous faites les villes pour les enfants. Moi, j'ai vu à la RATP Les enfants de 10 ans, c'est pas facile hein, d'utiliser les transports. Est-ce que, et ça c'est aussi des choses dans les SCOT, est-ce que quand on construit des projets d'aménagement, d'urbanisme, de transport, on envisage tous les gens qui vont être là. Les personnes âgées, les adolescents, les étrangers, les handicapés, etc. Parce qu'on peut ensuite faire des politiques spécifiques, mais qui sont souvent des politiques stigmatisantes. Si, quand on fait un équipement, un aménagement, un logement, on prend en compte la variété des populations qui peuvent s'y rencontrer, on va éviter d'avoir ensuite à faire des politiques sociales de réparation ou qui sont stigmatisantes. Hein, donc là, on reprend la question de l'accessibilité. Et je pense que pour les logements, on s'aperçoit à quel point l'habitat pour les personnes âgées est quelque chose d'important. Alors, moi, je définis cette vivre ensemble dans le, à tous les âges comme la capacité de, d'une qualification mutuelle entre une ville à vivre et une ville à produire. C'est-à-dire, je crois que les territoires ont à... ont à dépasser trois tensions. La seule que je citerai, c'est celle, effectivement, comment construire à la fois une ville où on vit bien, tous, comme lieu d'ancrage et d'hospitalité, où on peut habiter, travailler, se détendre, bouger, accéder aux différents lieux de la ville, et puis une ville à produire, où on ait des activités, où on crée de la richesse, les salariés sont aussi des partenaires de cette ville. Et que finalement, ceci implique d'inventer un art de vivre durable, solidaire, qui articule, je le disais, l'individu et la planète avec des tas de coopérations intermédiaires, et où chacun, je crois que c'est l'essentiel, et c'était un petit peu mes essais de tout à l'heure, où chacun peut apporter à la société... une richesse, sa richesse, sa valeur ajoutée, dans le respect des différences, et puis des lieux où on a envie de partager du temps ensemble et d'être ensemble, tout en faisant des choses éventuellement différentes. Je vous remercie. Merci
beaucoup. Bon, Sylvain, on a été dans le timing.
Merci à Edith hein, pour cet exercice difficile. Oui. Merci à vous.
C'était une soirée très agréable. Et oui, c'est ce que j'ai dit.
Alors, oui, normalement.